Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet autre épisode de Jason Ballon Rond, épisode 19 déjà. Bien content que ce podcast arrive quand même à avoir une certaine expérience et de plus en plus d'épisodes. Et pour cet épisode-ci, un autre épisode chargé, Olivier Prince-Groslot, c'est moi-même à l'animation, et je suis en compagnie de Doualé Ibrahim et Hans Junior Najimi, qui sont deux grands... qu'on connaît bien au podcast, mais aussi. Donc, comment allez-vous, les gars?
Ça roule, et vous autres, les gars?
Ah, ben, écoute, très bien. Liverpool, champion de la Carabao Cup, la MLS qui recommence, on est en Ligue des champions, peut-être pas Ligue des champions, mais quand même, c'est du beau foot qu'on a à nous proposer.
Puis, juste avant de commencer l'épisode, je voulais faire une petite dédicace à Hans, qui a écrit un article... après la finale de la Carabao Cup, c'était quand même son club qui a perdu, mais il a su garder son impartialité de journaliste puis quand même écrire un article sur une défaite de Chelsea. Donc, bravo! Félicitations!
Merci, ça n'a pas été facile, mais il fallait garder du professionnalisme.
Oui, ben, tu te l'as très bien dit, Dou, ça a été très bien joué. Puis avant de commencer, Anne, si tu veux nous donner un peu tes états d'âme, là, laissons faire l'impartialité journalistique par rapport à cette défaite, cette autre défaite de Chelsea?
Ça fait mal parce que c'était un match qu'on aurait pu gagner si ce n'était pas du gardien qui a joué, de Liverpool qui a joué tout un match. Plusieurs occasions ratées du côté de Chelsea. Donc, c'était un match qui était prenable. Sur papier, tu voyais beaucoup de blessures, dont Mo Salah du côté de Liverpool. Donc, je rentrais dans l'optique que peut-être que c'était faisable. On avait des chances de notre côté. Puis au final, Liverpool a... c'est donné corps et âme jusqu'à la fin. Van Dijk avec un but refusé, plus le but gagnant. Donc, je peux pas être, tant fâché parce que Liverpool le mérite aussi. Ils ont joué un très bon match. Puis, on peut juste s'en prendre à nous-mêmes, le Chelsea, parce que le match, on pouvait l'avoir.
Ouais, manque d'opportunisme. Entre autres, Conor Gallagher par deux fois, là, il fallait mettre ces occasions-là. Mais par contre, c'était vraiment tout un match. Là. On va y revenir, là, mais très beau match. Même s'il n'y a eu pas de but jusqu'à la 118e minute, c'était tout un match de soccer, même si c'était avec un score de 0-0 néanmoins. Mais avant de se lancer en Europe, les gars, on va commencer chez nous, au CF Montréal, parce que samedi dernier, le 24, le CF Montréal jouait son tout premier match de la saison en MLS. C'était contre Orlando. Orlando qui est une équipe qui vise... les grands honneurs cette année quand même. Et ça a terminé sur un match nul de 0-0, un peu comme Chelsea-Liverpool. Beaucoup d'occasions des deux côtés dans ce match-là. Côté montréalais, on pense à Coccaro qui a eu quand même beaucoup de chance. Joseph Martinez qui a eu peut-être une des plus grosses chances de ce match-là. Manque d'opportunisme des deux côtés. On s'en tire avec un match nul, ce qui est quand même un résultat positif pour la troupe de Laurent Courtois. Je ne sais pas si tu veux analyser ce match-là plus en profondeur, Hans.
Ouais, ben comme tu as dit, beaucoup de chances manquées. Puis, tu sais, le match aussi là, pour le CF Montréal, comme Orlando, ça aurait pu être prenable. Une des équipes aurait pu repartir avec les 3 points. Si on se concentre du côté du CF Montréal, j'ai bien aimé leur amorce de première demi. Ils ont donné le ton au match, surtout qu'ils étaient à l'extérieur dans une ambiance assez difficile à Orlando avec une équipe qui est pas facile à jouer contre. Mais Coccaro qui a eu une bonne chance dès le début. Je pense qu'il avait pas vu Yankov de l'autre côté, mais je pense qu'il aurait pu faire la passe, puis ça rentrait dans le fond du filet. Douk aussi, qui a une frappe de loin, pas la plus dangereuse, mais c'est quand même une frappe. Puis il y a Lasseter aussi, plus tard, vers la 4e minute, 5e minute, qui a aussi décoché un bon tir. Donc, ils ont commencé très, très fort. Je trouve qu'ils
Il y a eu le retour de Coccaro sur cette occasion, c'est ça?
Ouais, exactement, aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, je trouve qu'ils ont été audacieux, ils ont tenté leur chance. Peut-être c'est ce qui manquait aussi l'année passée, c'est plus d'essayer d'être, on va dire, dangereux devant le but, de tenter leur chance. Ça a été bon. Après, c'est sûr, ça s'est calmé un petit peu pour le CF. Ça a été plus Orlando qui a menacé. Donc, vers le milieu du match, la deuxième demi, je trouve que ça a été un peu compliqué pour le CF, surtout dans le jeu aérien. Il y a beaucoup de ballons qui ont été mis dans le dos de la défense ou des centres. Si Roy était là ou sinon on a été sauvé par un hors-jeu à une fois. Donc, dans l'ensemble, c'était un bon match. Je pense qu'un nul, ça, on peut le prendre parce que Orlando, c'est toute une équipe, comme tu l'as dit, qui vise les grands honneurs. Donc, c'est un point, c'est mieux que zéro. Puis c'est surtout ça qui peut faire la différence à la fin de l'année parce qu'on connaît que le CF Montréal d'habitude commence ses saisons assez mollement, prennent pas beaucoup de points, mais prendre un point comme ça à l'étranger, ça peut faire du bien. Puis ils ont pas mal paru. Je pensais pas autant une bonne performance de Duke, justement. Je pensais pas même pas le voir dans 11 partants.
Et non plus.
Samuel Piette aussi qui a fait une bonne job. Ouais, Campbell en défense aussi qui a pas été mauvais. Donc, dans l'ensemble, c'était très, très bien. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, mais pour un premier match, contre une équipe compliquée, ça annonce bien le reste de la saison.
Tout à fait. J'étais surpris, moi aussi, de ne pas voir Doug sur le 11 partant à la place. Ben, de voir Doug sur le 11 partant à la place de Poku, plutôt. Là. Ouais. Bref, Doug, toi, est-ce que tu as vu le match? Puis aussi, parmi les nouveaux venus ou le match dans l'ensemble, qu'est-ce qui t'a impressionné?
Je ne vais pas vous mentir, j'ai vu un peu le match, mais pas assez. Moi aussi, j'étais à l'extérieur samedi soir. Là. J'ai un peu écouté brièvement à la radio puis j'ai vu les fessayants d'après-match. Là. Mais mm-hmm. Bref, dans l'ensemble, d'après ce que j'ai vu, c'est que pour vrai, ça ressemblait à un premier match de la saison régulière. C'était quand même assez brouillon des deux côtés, là, que ce soit autant du côté du CF et du côté d'Orlando. Puis en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que finalement les deux équipes n'ont pas réussi à aller chercher les trois points parce que c'était. Comment dire? Souvent, quand tu arrives en début de saison, mettons, on va prendre le cas du CF parce que c'est l'équipe qui nous concerne plus dans cette situation-là. C'est une équipe qui se retrouve avec un nouvel entraîneur, avec plusieurs nouveaux joueurs, avec un nouveau système de jeu. Des fois, ça prend du temps à vraiment trouver leur repère, puis peu importe. Puis ça fait deux fois en deux ans que le CF se retrouve dans une situation comme ça. Alors, c'est un peu normal que le CF se retrouve avec quelques difficultés et avec un jeu un peu plus bruyant pour le premier match de la saison. Mais quand même, dans l'ensemble, moi, je suis relativement satisfait du résultat. 0-0 à Orlando. Franchement, moi. Je suis bien content de qu'est-ce que j'ai vu. Puis, écoute, le CF se retrouve. Pour moi, le CF a toujours eu le calendrier le plus compliqué de la MLS. Tu te retrouvais à jouer 6-7 matchs à l'extérieur. C'est pas tout le monde qui aime ça. T'es. Puis, après ça, tu toujours te retrouvais avec une fiche un petit peu moins intéressante. Puis j'ai commencé à jouer du jeu de rattrapage à domicile. C'est pas la meilleure des choses, mais pour un premier match avec un nouvel entraîneur, avec plusieurs nouveaux joueurs, avec un nouveau système de jeu, moi, dans l'ensemble, je suis satisfait. Pour vrai. Mais c'est peut-être juste moi. Peut-être que des fois, il y a du monde qui ont des grandes attentes, mais c'est pas comme ça, malheureusement, dans le monde du foot, pardon. Dans le cas du CF, il y a plein de choses, il y a plein de nouvelles choses, et en plus, tu commences à l'extérieur, qu'est-ce qui est jamais évident pour n'importe quelle équipe, peu importe le niveau. Là.
Ouais, ben, comme vous l'avez dit, les deux, j'ai l'impression que pour tout le monde, là, c'est un résultat qui est satisfaisant, les 0-0. Considérant que c'est un match qui aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, que c'était à l'étranger, je pense que c'est vraiment un résultat dont on peut être satisfait. Hans, sinon. Niveau attaquant, Coccaro, Martinez, les deux se sont quand même illustrés. Martinez, sa chance qu'il a raté, ça fait mal quand même. Mais j'ai l'impression que ces deux attaquants un peu du même style, des gens de renard de surface. Ce qui me fait dire qu'on n'aura jamais les deux titulaires en même temps, je pense. Là. Je pense que pour le système tactique de Laurent Courtois, d'avoir les deux en même temps qui occupent un peu le même rôle, je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Est-ce que tu resterais donc avec ça sur l'ensemble de la saison? Là, c'est tôt pour se prononcer, mais pour le moment, rester avec Coccaro titulaire et Martinez en super sub, est-ce que ça serait ta solution pour le moment?
Ben, de ce que j'ai vu, c'est que Coccaro est capable de tenir assez longtemps, un peu plus que Martinez. Je ne pense pas que Martinez est encore prêt à 100% pour faire 75-70 minutes. Coccaro, j'ai vraiment aimé, il est explosif, surtout qu'il y a plusieurs reprises... Il descendait bas pour récupérer le ballon. Et une fois, ça a mené à une belle action. Je pense que c'est là qu'on la frappe de la CTE en début de match. Mais j'ai aimé ses déplacements. Il est un peu partout. Il n'est pas nécessairement juste dans la surface. Il va beaucoup se déplacer, ce qui crée beaucoup de liberté pour les deux qui sont en arrière de lui, dont Duk et Yankov. Donc, pour l'instant, oui, je continuerai comme ça. Peut-être c'est en arrière, c'est Yankov et peut-être d'où que je changerais pour Opoku, là, dépendamment des matchs. Mais pour l'instant, je commencerai avec Yankov parce que je pense qu'il est plus apte à tenir plus longtemps dans un match. Puis Joseph Martinez, avec son expérience, pourrait rentrer dans un fin de match, justement, pour être agir comme un joueur clutch, là, comme on dit, qui va, ouais, qui va marquer un but en, dans les derniers instants. Puis aussi, juste pour ne pas oublier, il y avait Opoku qui a raté une grosse chance dans les arrêts de jeu.
Oui, c'est vrai.
Donc, tu sais, là aussi, on aurait pu prendre les trois points à partir de là. Mais oui, Barcelone aussi qui a raté une bonne chance. Ouais, pour venir à toi, je dirais Yankov. Kokaru qui commence, puis Martinez comme changement.
Je suis d'accord avec ça. Il y a aussi Opoku qui a délivré toute une passe à Mané. Je me rappelle plus, c'est pour qui? C'était-tu pour... Non, c'est... À Mané, il a fait une passe derrière les défenseurs en profondeur. C'était à pour qui sa passe de jeu?
Je sais pas.
Bref, une question. Visionnez les saignants et vous le trouverez. Mais je suis d'accord avec ce que tu apportes. Puis, pour un gars qu'on n'a pas vu aussi dans le match, à moins qu'on l'ait vu en fin de match, mais je ne crois pas, là, Victor Wanyama, qui n'a pas joué, si je ne me trompe pas, pas titulaire, n'est pas embarqué sur le terrain. On a surtout embarqué les attaquants, en fait, du côté de Laurent Courtois en fin de match. Donc, on voulait aller chercher les trois points définitivement, mais pas utiliser Wanyama du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Dou? Est-ce que Wanyama est rendu aussi bas dans l'échelle au CF Montréal de, encore une fois, ne pas être un titulaire et même ne pas embarquer comme remplaçant durant un match?
Écoute, peut-être que c'est vraiment une bonne question, Ali. Peut-être que dans ce match-là, surtout, on le sait, le Piet et Wanyama, techniquement, ils ont le même rôle. C'est le même style. C'est des styles de jeu un peu différents. Là, on s'entend que Wanyama est plus fort techniquement que Piet. Puis que, peut-être que Piet a pas mal plus d'endurance aussi que...
Piet a plus de chien aussi.
Oui, aussi. Mm-hmm. Mais souvent, l'endurance aide aussi pour le fait que tu as plus de chien. Donc, c'était peut-être plus dans ce cas-là, mais tu as tout à fait raison, Ali. Mais peut-être que dans cette situation-là aussi, c'est juste l'allure du match qui a fait en sorte que finalement, Wanyama avait peut-être pas son utilité en fin de rencontre. Et comme on l'avait mentionné un peu plus tôt, le fait que le CF voulait chercher les trois points et qu'ils ont décidé de remplacer plusieurs attaquants par d'autres attaquants. Pour moi, ça explique un peu pourquoi on n'a pas vu Wanyama dans ce match-là. Peut-être que si CF menait, peut-être que là, Wanyama aurait eu peut-être quelques minutes de jeu, mais je suis pas tant nerveux là, pour Wanyama. Peut-être qu'il peut être un remplaçant de luxe aussi, qui sait, cette saison. Mais la saison est très, très jeune, là, tu sais, aussi. Là. Donc, ça va prendre un peu de temps pour Wanyama, mais je suis pas tant surpris de pas de ne pas avoir vu Wanyama jouer quelques minutes de jeu puis pas du tout dans cette rencontre-là, là, pas du tout. Là.
Ouais, moi non plus, puis ça peut très bien changer, comme tu l'as dit. On a opté pour Chouanière et Piet en milieu de terrain, donc intéressant de voir. Est-ce qu'on va voir un Wanyama dans les prochains matchs, un Saliba, un Zouir qui est entré en fin de match. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, personne n'est blessé pour le moment, on a de la profondeur. Ça, c'est très appréciable. Là-dessus, je pense qu'on peut... prochain match du CF Montréal, c'est ça qui sera mentionné. C'est contre le FC Dallas samedi prochain. Dallas qui a remporté son dernier match contre San Jose 2-1. Dallas qui, je pense, va être... je ne connais pas la force de Dallas, mais ça me semble être une équipe qui peut faire quelque chose de bien à MLS. Là. Dis-moi si je me trompe, Hans.
Non, t'as fait raison.
C'est ça. Bon, donc voilà. Dallas, ça va être une autre grosse confrontation samedi prochain. Pour ce qui est du reste de la MLS, on a pu voir le match d'ouverture entre Miami et Real Salt Lake. Lionel Messi qui a régalé durant ce match. Suarez également qui a une passe décisive, Luis Suarez. Le Crew de Columbus de Wilfried Nancy, les champions en titre, ont gagné contre Atlanta. On a vu les débuts de Hugo Lloris avec le LAFC et la victoire de 2-1 contre les Sounders. Ouais. Donc, c'est ça, plusieurs gros matchs, mais Miami qui a rejoué un autre match également contre les Galaxy avec un but complètement barcelonais de Jordi Alba et Lionel Messi qui ont bien combiné 90+2 pour égaler. Donc Miami qui, avec deux matchs à jouer, est au sommet de l'Est. Voulez-vous en parler de cet Inter Miami barcelonais? Messi, Alba, Suarez, Dou, qui ont leurs deux premiers matchs de Miami.
Franchement, c'est très intéressant. C'est sûr que ça ramène des bons souvenirs là, en tant qu'amateur de football, là, t'es de revoir cette équipe entre guillemets du Barça là, du côté de Miami. Ça, c'est quelque chose que moi personnellement me fait plaisir de voir, surtout que j'ai eu plusieurs chandails du FC Barcelone de Suarez, Messi, Neymar à l'époque, il y a 7-8-9 ans. Là, donc, c'est cool de voir ça. Dans l'ensemble, ça va pas si pire que ça. Moi, par contre, je suis quand même très surpris que Suarez est capable de jouer autant de minutes. Là. Dans ma tête, j'ai l'impression que Suarez, ben, on le sait, là, Suarez, son genou est complètement fini. Là, mais c'est juste que t'sais, de le voir jouer autant de minutes pour un gars qui est un genou fini, c'est incroyable. Puis écoute, c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs, pardon, absolument, c'est des joueurs d'exception, là, de, parmi les meilleurs de leur génération. Bon, dans le cas de Messi, c'est parmi les meilleurs de tous les temps. Suarez, c'est parmi les meilleurs attaquants de sa génération. Alba, latéral. Busquets, meilleur, un des meilleurs numéro 6 dans le sport de football également. Donc, c'est le fun de les voir ensemble. Puis, ça se voit aussi qu'ils ont un niveau de football absolument exceptionnel. Puis, que c'est des joueurs qui n'ont pas, qui ont presque jamais joué en Amérique. Donc, c'est cool de les voir. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que, tu sais, ils sont vieux. Ce serait le fun de les voir jouer à Montréal là, au mois de mai, mais j'ai l'impression qu'on va pas voir tout le monde du côté de Montréal. Surtout que, je sais pas si vous avez vu le calendrier à ce moment-là, là, mais Yanné joue 4 matchs en 2 semaines.
Oui, en effet. Donc, il y a plusieurs théories comme quoi il pourrait rester en Floride et ne pas venir à Montréal du tout, M. Messi. Ouais. Et je crois que ça serait plausible. Ça dépend de son état de santé rendu au 11 mai, là, mais... Vraiment, pour ceux qui ont acheté des billets à 450 $, ils pourraient être très frustrés là, de ce côté-là. Mais ouais, moi, Messi, écoute, surtout dans le match d'ouverture contre Real Salt Lake, j'ai vu un peu du match, là, comment il volait avec ce ballon là, quand il était capable de déborder des gars avec sa vitesse, avec son contrôle de ballon, comme on connaît Messi le faire. Il était vraiment impressionnant à voir sur le terrain. Puis après ça, quand tu rajoutes son but contre avec Jordi Alba de toute beauté, il y a même une petite glissade pour finir ça. Du grand Lionel Messi, c'est plaisant de voir ça ici, un joueur de la sorte, qui se démarque de la sorte en Amérique du Nord. Ça continue par rapport à l'an dernier. J'avais quelques petites inquiétudes là, parce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu en match préparatoire faire de belles choses comme ça. Ouais. Là, on est régalé pour l'instant. Toi, Hans, comment tu vois ce début de saison de l'Inter Miami?
Bah, comme je l'avais pensé, là, tu sais, ils font leur truc. Le but d'Alba, mais si on l'a vu tellement de fois, c'est beau de voir ça à la fin, là, dans les arrêts de jeu. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète, ou, tu sais, ça, c'est plus au niveau de l'arbitrage en faveur de l'Inter Miami, dans le match, dans leur dernier match, dans le deuxième match, des fautes, tu sais, imaginaires, du Galaxy, tu sais, il y a une action que Busquets se fait fauter, mais fauter, encore là, c'est un grand mot, on le touche à peine. Là, l'arbitre donne un carton jaune au joueur, donc ce qui a mené aussi à l'expulsion de ce joueur-là pour que l'Inter Miami finisse le match en supériorité numérique.
Ah, tu parles de Delgado, Marco Delgado.
Ouais, exactement, c'est ça. Donc,
c'est sur un double carton jaune ou c'est un rouge?
Double carton jaune. Je trouve que les arbitres ont tendance à se faire un peu trop vite sur justement ces stars-là, là, Busquets, Messi, ce qui pourrait créer un peu... de frustration chez les joueurs et les autres équipes de la MLS. Donc, je trouve qu'il faudrait peut-être revoir ça, l'arbitrage en faveur de Miami. Mais outre ça, je pense que Miami a bien débuté sa saison. C'est 4 points sur 6 possibles. Bon, ça se prend. Surtout qu'ils ont quand même été capables de remonter dans le dernier match là, à la fin pour égaliser. Donc, c'est un bon début de saison. Il faut juste que les joueurs restent en santé. Si ça va être ça, le plus gros point d'interrogation chez Miami, puis on aimerait les voir tout en santé au Stade Saputo le 11 mai. J'espère pour eux qu'ils vont rester en santé.
Ouais, on l'espère tous pour, comme je disais, pour ceux qui ont acheté des billets au prix énorme, mais c'est un très bon point que tu apportes, l'aspect de l'arbitrage favorable envers Miami, parce que quand tu y penses, le niveau éthique, la MLS, niveau revenu, compte beaucoup sur le Miami, Messi, Suarez. Il y a un gros engouement puis une grosse part des revenus qui ont augmenté cette année. Mais en fait, l'augmentation est grandement due à Messi et à Miami, ce qu'ils ont fait en rapatriant tout ça puis en construisant cette équipe barcelonaise. Puis on a la chance de voir ça ici en Amérique du Nord. C'est grandement grâce à l'Inter Miami. Donc, est-ce que c'est possible que dans les coulisses, il y ait un genre de « Hey, laissez-les jouer, ces gars-là ». C'est possible. Éthiquement, ce serait dommage. Mais c'est quelque chose qui est très plausible, en effet, que l'arbitrage soit favorable envers ces joueurs-là. Puis, j'ai pas vraiment vu le deuxième match. Là. J'ai plus vu celui contre le Real Salt Lake, mais hâte de voir ces petites fautes-là, voir si ça se reproduit là, sur Busquets. Busquets qui, je le vois très bien, là. Mais t'as même pas besoin de, j'ai même pas besoin de voir l'action. Je sais très bien comment il tombe. Puis, c'est un classique fakeage européen, si on peut dire. Là. Donc,
ouais, et puis surtout que.
L'arbitre. Ouais, vas-y. Lido.
Mais surtout qu'on parle du FC Barcelone. Hein. On parle de l'historique. Là. À part Messi, là, Suarez, c'est un des plus gros plongeurs de l'histoire du football. T'as Busquets aussi qui est un professionnel dans l'art aussi.
Ouais.
Puis Talba aussi qui n'est pas mauvais non plus. Alors, est-ce qu'on est vraiment surpris de les voir plonger après un petit contact? Non. Fait que je pense que si tu connais ton football, tu sais qui t'affronte là, en fait. Là. C'est juste ça. Là.
Donc, t'as raison. Luis Suarez puis Sergio Busquets. On est proche du Alexandre Despatie, le niveau plongeon. Là, c'est impressionnant.
Il faudrait surtout pas que Neymar rejoigne les potes peut-être l'année prochaine. Ce serait...
Non. Là, écoute, il gagnerait la médaille d'or aux Olympiques en plongeon.
Ah, c'est sûr.
donc, à suivre ça, ce dossier-là d'arbitrage favorable envers l'Inter Miami. Puis maintenant, on peut se diriger vers l'Europe, les gars. Mais... On en parlait en début de show, là, mais la Carabao Cup avec la...
Attendez.
Ah, vas-y, excuse-moi.
Parce que là, on parle, parce que c'était pas prévu, mais là, c'est super important qu'on en parle. Puis là, on va bientôt passer à autre chose. Mais on parle d'Europe, on peut pas passer à côté du fait que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. On n'en a pas parlé.
Tu peux commencer. On est dans le segment Europe, là, fait qu'on peut, tu peux y aller, c'est vrai. Bon point.
Mais je pense que c'est le plus gros sujet
de
tout. Là. Finalement, Kylian Mbappé qui va officiellement quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la présente saison, après 7 saisons passées du côté de Paris. Meilleur buteur de l'histoire du club. Devenu en fait une figure emblématique non seulement du Paris Saint-Germain, mais également de la France en général en raison de ses nombreux exploits. Mais quand même, Kylian Mbappé, après cette saga qui dure depuis 3 ans, décide de partir du côté de... en fait, on ne sait pas encore officiellement où il va partir, mais on se doute qu'il va
probablement signer
au Real Madrid. À partir de soit même, si ce n'est pas déjà fait maintenant, ça va être d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais bref, les gars, on va enfin passer à autre chose. Hein. Enfin, après...
Ah oui, enfin.
Enfin, là, ça va faire du bien, mais non, honnêtement, quelle mauvaise gestion du Paris Saint-Germain sur le dossier Mbappé. On s'en est souvent parlé, mais déjà le fait que Mbappé a eu plusieurs problèmes avec d'anciens joueurs du PSG, dont ça explique aussi le départ de Neymar et Messi et d'autres à la fin de la saison 2023, puis qu'il y a aussi il y a eu plusieurs joueurs français qui sont venus l'été dernier, dont des amis de Kylian, là, notamment Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Malgré ça, tu n'as pas été capable de garder Mbappé, qui est parmi le top 3 des meilleurs joueurs au monde. Puis tu finis par le perdre gratuitement. Pour moi, c'est un échec monumental du Paris Saint-Germain. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais il fallait que j'en parle un peu. Là.
Tout à fait. Puis je me permets de plugger mon article là-dessus, justement, sur le d'Mbappé pour le Club École. Mais je t'en parlais, là, c'est une saga qui dure depuis 2021. Puis j'en parlais dans mon article, mais le nombre de fois qu'on a pensé vendre Mbappé, que le Real Madrid était intéressé, que finalement il est resté, finalement il prolonge. Tout le monde dit, là, Nasser El Khelaifi dit, hey, ça va, maillot, là, on l'affiche la cérémonie avec maillot 2025, ça veut dire, c'est fait, Mbappé va rester jusqu'en 2025. Mais attention, il y avait la petite nuance dans le contrat qui faisait que seulement Mbappé pouvait activer sa clause qui faisait en sorte qu'il prolongeait d'un an de plus jusqu'en 2025. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Il ne décide de ne pas le faire, donc il avait berné tout le monde, en fait, et aussi les dirigeants du PSG qui avaient mal géré le dossier, comme tu l'as dit. Et que ça fait, c'est qu'on arrive à l'été passé, menace de saison blanche à Mbappé. On dit, hey, tu prolonges ou on te vend. Finalement, rien de ça n'est arrivé. On décide de faire jouer Mbappé, finalement, parce qu'on ne peut pas se priver quand même d'Mbappé. Et on est rendu là où on est, que Mbappé va partir libre du Paris Saint-Germain. pour 0$. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Dou. Gestion médiocre de la part du PSG. Puis pour Mbappé, ben, tu sais, c'était le centre du projet sportif durant toutes ces années. On a rapporté des Ligue 1, des Coupes de France, oui. La Ligue des Champions, c'était ça le but. Jusqu'à maintenant, ça a échappé au PSG. La dernière chance, c'est cette année. Est-ce que c'est cette année que le PSG saisira sa chance de remporter la Coupe aux grandes oreilles? J'y crois pas vraiment, personnellement. Mais qui sait? Qui sait? Mais oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mauvaise gestion du PSG. C'est dommage pour eux. Voilà. Puis pour Mbappé, ben, ça va rejoindre une équipe du Real Madrid qui va être extrêmement... Ben, Real Madrid, c'est pas encore confirmé, mais on s'en doute que ça va être là. Si c'est bien le cas, ça va être une équipe extrêmement impressionnante à voir jouer. En plus, si on signe un Alphonso Davies en défense, si Toni Kroos prolonge aussi, ça pourrait être ça. On pourrait laisser un vétéran pour appuyer sur ces jeunes-là. Donc, ça pourrait être très, 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 très fou à voir jouer ce Real Madrid. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, je veux laisser la parole à Anne s'il y a quelque chose à rajouter sur le
cas. Ben, ouais, je pense que la plus grosse erreur du PSG là, dans le cas d'Mbappé, c'est d'avoir laissé une trop grosse importance, une trop grosse place à Mbappé dans la hiérarchie du club, au même niveau que les dirigeants, etc. Que Mbappé ait un mot à dire sur le mercato ou quoi que ce soit. Je pense que involontairement, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu prends la grosse tête puis tu te sens au-dessus du club. Juste pour parler du Real Madrid, là, selon les chiffres du salaire d'Mbappé, il serait au même niveau salarial que Bellingham et Vinicius. Donc, il n'y aura pas de joueur préféré, il n'y aura pas de chouchou. Ouais.
Ce serait une baisse de salaire comparé au PSG.
Exactement. Les joueurs de classe mondiale sont au même niveau. T'sais, pour pas qu'il y en ait un qui se sente au-dessus de l'autre. Et c'est ce qui fait en sorte qu'au Real, les autres joueurs ne se sentent pas à un niveau inférieur. Tandis qu'au PSG, on sait clairement que c'est Mbappé et les autres. Et c'est peut-être pour ça que Mbappé, à chaque fois, pendant le 3 ans là, de la saga, il y avait le gros bout du bâton, c'est lui qui décidait un peu qu'est-ce qu'il voulait faire. Oui, je pars. Non, je pars pas. Donc, c'est dommage qu'il va partir librement et que le PSG pourra pas faire des revenus là-dessus. Mais en même temps, c'est eux qui ont pas mis les limites, qui ont pas... T'sais, tu peux pas dire au début de la saison, il va pas jouer, puis là, au final, deux semaines, trois semaines après, tu reviens sur ta décision. Et c'est beaucoup de... Il y a pas de régularité dans leurs propos. Puis là, c'est dommage. Mais j'ai vu la nouvelle que Mbappé allait manger avec le président, plus... Président Macron, plus Nasser et tout. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas un retournement de situation qui va réussir pour rester au PSG.
Ouais. Ben, c'est arrivé plein de fois dans la saga que ça pourrait arriver. Là.
Ouais.
Mais ouais. Très bon point.
Vous voyez.
D'où je pense que t'as bugué un peu, mais vas-y.
Est-ce que ça bug ou tout va bien?
Là, c'est bon.
Tu vois rien?
Vas-y. Ouais.
Ok, pardon, désolé du bug, mais bref, Anne, ça amène un super de bon point. Moi, je pense même que c'est bien avant ça. Je pense que c'est dès la signature de Neymar et l'arrivée des deux en même temps en 2017 qui a fait que ces deux joueurs-là se sont retrouvés au-dessus de l'institution. Qu'est-ce qui, pour moi, est anormal. C'est la preuve que ton équipe ne fonctionnera jamais si des joueurs sont au-dessus de l'organisation. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Et surtout que Mbappé, il y a un poids sur le fait que il est français, il est champion du monde en France.
Il est parisien aussi.
Il est parisien aussi. Il a un poids majeur, mais j'ai jamais vu un joueur avoir autant de poids sur une équipe et juste sur un pays au complet que Mbappé a en ce moment du côté de la France. T'sais, c'est pas normal, là. Pensez-y. Là. C'est pas normal que le président Macron et le président et Nasser El Khelaifi décident de faire une réunion d'urgence et d'aller dîner avec Mbappé pour dire reste. C'est pas normal, là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, du côté du Real Madrid, ils ont pas fait ça avec Sergio Ramos, là. Pourtant, Sergio Ramos, il était champion du monde, champion d'Europe, capitaine du Real Madrid. Il y a quelque chose qui cloche. Je pense que le PSG est juste un trop petit club puis que malheureusement, certains joueurs ont plus d'histoire que l'organisation. C'était le cas de Messi. C'était le cas de Neymar aussi à ce moment-là, qui arrivent, qui ont un plus gros statut que le PSG et malheureusement peuvent faire ce qu'ils veulent en fait avec leur contrat et leurs conditions. Donc malheureusement, c'est ça qui arrive avec Mbappé. Mbappé a encore un plus gros poids vu qu'il est français et qu'il vient de Bondy en plus. Fait que c'est fou qu'est-ce qui se passe du côté du PSG. Mais Écoute, peut-être que si Mbappé part maintenant du côté du Real Madrid, c'est peut-être maintenant qu'il va réussir à exploser du côté du Real. Parce que j'ai vraiment l'impression que si il ne signe pas au Real Madrid dès cet été, moi, je ne crois pas une seconde qu'Mbappé, ça va être un succès du côté de Madrid. J'y crois pas. J'y crois pas. D'habitude, c'est rare.
On s'en était déjà parlé au niveau positionnement et tout. Ça va être intéressant de voir s'il aboutit à Madrid. Mais pour ce que tu disais de la rencontre avec Mbappé, peut-être que le plan du Real, c'est du PSG, excusez, avec cette rencontre-là, c'est juste de signer Mbappé pour pouvoir le vendre pour un montant là, dès juin. C'est peut-être c'est juste ça qu'ils veulent. Là, parce qu'à la base, Mbappé, il disait ça. Il disait, moi, je veux laisser de l'argent au PSG. Je veux qu'on me vende, mais que je fasse du profit au PSG. Finalement, mais pour le moment, c'est pas ça qu'il ferait. Il partirait à 0$. Pas de sa faute. Là, le PSG aurait pu le vendre avant ça. Mais voilà. Donc, c'est ça. Peut-être que cette rencontre-là, c'est pas nécessairement pour garder Mbappé un an de plus, mais tout simplement pour pouvoir le vendre à un prix au Real. Mais bref, à voir. Puis écoute, est-ce qu'on va encore avoir un changement de cap dans cette saga-là? Moi, je dirais non. J'étais un peu tanné. Mais qui sait? C'est Kylian Mbappé et le PSG. Ça se peut très bien. Et comme vous l'avez dit tous les deux, ben, l'affaire à retenir dans cette situation-là, c'est que tu ne peux pas avoir un joueur qui est plus gros que le club. Ça ne marche tout simplement pas. Donc, merci Dou d'avoir apporté ce segment Mbappé. C'était effectivement nécessaire au podcast.
Plaisir.
Maintenant, passons à l'Europe pour de vrai. Carabao Cup, on en parlait un peu tantôt, mais je voulais avoir Dou tes impressions sur ce match. Jurgen Klopp qui a fait entrer que des jeunes, beaucoup de jeunes en toute fin de match. Un choix risqué parce que certains n'avaient aucune expérience, tout simplement. Mais en raison de tous les blessés, là, Hans a parlé de Salah tantôt, mais Salah, Jota, Szoboszlai, Trent, Alisson, et il y en a d'autres. Voilà, veux-tu t'exprimer sur ce choix de Jurgen Klopp et cette performance de Liverpool?
Écoute, performance absolument exceptionnelle de Liverpool, comme tu l'as mentionné, avec les blessures qu'ils ont, les blessures importantes aussi, tu l'as mentionné, là, quand tu perds Salah, Alisson, Becker, Jota,
Szoboszlai,
ben ça j'ai dit, Thiago Alcantara, t'as même Gravenberg qui s'est blessé en début de match aussi, qui a quitté, Trent aussi qui est blessé, donc t'as, okay, t'as quand même, quand t'as comme
quoi, t'as quasiment 70% de blessés,
ça, t'as combien, c'est genre 70% de ton alignement de départ qui était absent pour cette rencontre-là contre Chelsea, qui était presque complet. Il manquait Thiago Silva du côté de Chelsea, mais c'est juste triste et drôle, par contre, du côté de Chelsea, cette défaite-là. Là, tu sais, quand tu te rends, on le sait, là, l'investissement que Chelsea a mis depuis plus d'un an et demi, depuis l'arrivée de Todd Bowley, c'est plus d'un milliard de dollars dépensés en transfert et tu ne réussis pas à gagner contre une équipe de Liverpool décimée par les blessures qui embarque plein de joueurs que je ne pensais jamais qu'ils allaient jouer en finale de Carabao Cup. Un gars comme Jaden Dance, j'étais comme quoi?
En plus, il a failli marquer Dance.
Je sais. Un gars comme James McConnell qui joue, un gars comme... Ouais. Kwanzaa, qui c'est comme wow.
Mais Kwanzaa, on l'avait déjà vu en premier.
On l'avait déjà vu, mais t'sais, de Bobby Clark, t'sais, c'est.
Ouais, comme, vraiment.
Ça a comme pas de sens au final, là, t'sais, de voir autant
t'sais,
de.
Quand c'est rendu jouer. Que Harvey Elliott à 20 ans est un vétéran sur le terrain, c'est quelque chose. Là.
Ouais, c'est fou. Et j'étais quasiment en train de me dire, est-ce que Adrian va embarquer aussi? Parce qu'Adrian était remplaçant dans cette rencontre-là, du côté de
Liverpool. Keller a fait un très bon job.
Ouais, Keller a fait un excellent boulot, mais bref, les gars, c'est juste, c'est le fun de voir Liverpool réussir à remporter un trophée face à une équipe de Chelsea que je ne comprends pas comment, par moment, ils ont réussi à perdre cette match-là. Je pense qu'ils auraient pu gagner ce match-là. En fait,
ben oui, certainement. Mais, il y a eu des grosses occasions des deux côtés.
Des deux côtés, mais bref, gros résultat des deux équipes. Puis c'est juste drôle de voir Chelsea qui, je te le dis, je l'ai dit à Hans, je vous l'ai dit les gars, je ne comprends pas comment ça se fait que Pochettino réussit toujours à se trouver du boulot alors qu'il n'a rien gagné dans sa vie. Le seul titre qu'il a gagné, je pense, c'est comme des titres à PSG, mais même, rappelez-vous, quand il est arrivé sa première année, il a perdu la Ligue 1 en France avec le PSG. C'est Lille qui a gagné la Ligue 1 la première année qu'il était là. Donc, c'est pour vous dire à quel point que ces gars-là ne devraient pas coacher des grosses équipes. Puis malheureusement, Chelsea, quasiment quasiment prêt à dire que c'est plus un gros club d'Angleterre, hein, au point qu'ils sont rendus. Là. Oui, ils ont des gros moyens, mais seulement, ça ne joue pas comme une équipe de top 4, encore moins une équipe de top 5. Je pense que Chelsea est quoi en ce moment? 10e, 8e?
11e.
Ouais, je pense 10 dans ce coin-là. Mais bref, je sens que Hans veut répondre à ses attaques répétées de Doualé sur son club de Chelsea. Ouais. Mais juste avant, moi, je veux donner mon opinion sur Pochettino. C'est vrai qu'il n'a pas gagné grand-chose, mais comme entraîneur, on l'a entendu à Tottenham, on l'a entendu au PSG, c'est un entraîneur qui est vraiment proche de ses joueurs, qui a une bonne relation avec ses joueurs, un peu comme Klopp. Donc, je pense que c'est de ce côté-là sa plus grande force d'entraîneur. Il s'est quand même rendu en finale de Ligue des Champions. Il a quand même eu des bonnes performances. Il n'y a rien de gagné de majeur, certainement, mais je ne pense pas que ça reste un mauvais coach. Puis je laisse la parole à Hans pour se défendre ton club de Chelsea.
Écoute, c'est des attaques justifiées, mais pour revenir à Pochettino, premièrement, oui, c'est vrai qu'il n'a rien gagné, mais je pense pas que l'entraîneur, on mesure sa grandeur comme entraîneur ou son statut avec les trophées qu'il gagne. T'sais. Juste pour prendre l'exemple avec un joueur, Harry Kane n'a jamais rien gagné dans sa vie. Pourtant, c'est un des meilleurs attaquants de pointe actuels dans le monde.
De sa génération.
De sa génération.
Ouais, mais...
C'est pour dire que les trophées, ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose parce que, tu sais, dans la situation dans laquelle il est en ce moment, tu ne t'attendais vraiment même pas à ce que Chelsea soit en finale. Tu sais, il faut le voir par étape par étape. Après, c'est sûr qu'une fois rendu en finale, le but, c'est de la gagner, mais c'est vraiment, tu sais, de voir où est-ce que l'année prochaine, il va être. Cette année, c'est sûr qu'on n'allait pas être une équipe compétitive au même point que Liverpool ou City. Mais si tu regardes d'une manière optimiste les choses, il y a une progression. Puis on a deux matchs contre City avec des matchs nuls qu'on a très très bien joués. Liverpool, ça finit toujours par des matchs nuls, mais on va jusqu'au tir au but, malgré qu'ils avaient un effectif réduit. On n'a pas fait des mauvais matchs contre Arsenal ou contre Tottenham ou United. Donc, ils sont capables de se mesurer face aux grosses équipes. Je pense que le problème de Chelsea, c'est vraiment la constance. Puis surtout, d'établir un 11 partant qui va être solide, qui va pouvoir être présent à chaque match. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de rotation. Puis tu n'as pas un système établi. C'est ce qui nuit à Chelsea depuis quelques années. C'est que tu as beaucoup de joueurs dans l'effectif. Puis. Une fois qu'un attaquant ne produit pas, tu le changes pour un autre. Donc, ça détruit un peu la confiance des joueurs, etc. Donc, je pense que le jour où Pochettino va pouvoir avoir ses hommes de confiance, ainsi que des changements qui t'sais, un peu comme Arsenal, à chaque fois que, on va dire, Martinelli ne produit pas, ben, il y en a un autre qui rentre t'sais, de façon... T'sais, il sait que sa position, c'est d'être un changement. Ben, quand on va avoir ça à Chelsea aussi, je pense que ça va permettre à l'équipe de progresser. C'est sûr qu'actuellement, 11e en première ligue, c'est pas là où on aimerait être, mais il faut voir les choses de manière réaliste et que l'équipe n'est pas encore prête à compétitionner pour le haut niveau de la première ligue. Puis pour revenir au match, ben, on l'a dit tantôt, il y a des chances qui ont été manquées des deux côtés, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Mais une fois que ça s'est rendu en prolongation, je savais que ça allait pencher vers Liverpool parce que...
Ouais, mais Liverpool a dominé en prolongation, ce que je ne m'attendais pas là, avec tous ces jeunes.
Exactement. Mais t'sais, une fois que, on va dire, les négligés se rendent à partir des prolongations, on le voit dans toutes les compétitions internationales comme la CAN ou la Coupe du Monde, c'est là qu'ils ont rien à perdre là, en tant que négligés, fait qu'ils vont y aller. Puis on a eu la preuve, là, Liverpool a gagné à la toute fin. Si Chelsea voulait gagner ce match-là, c'était dans les 90 minutes. Il fallait battre les gardiens et puis la défense de Liverpool, ce qui n'a pas été le cas. Donc, le meilleur a gagné dimanche. Et bravo, bravo à Liverpool.
Mais Dou, tu voulais-tu rajouter à ça? Puis aussi, juste finir sur, avant de passer la parole à Dou, en fait, Pochettino. On a eu cette conversation-là, mais je le garderai personnellement aussi l'an prochain parce que tu as tellement besoin de stabilité au niveau du poste d'entraîneur du côté de Chelsea. Ouais. Ça a tellement roulé dans les dernières années, puis c'est tellement pas une solution qui est la bonne pour les joueurs, une équipe jeune en plus de Chelsea. Ouais. Et comme tu as dit, Hans, on a vu une progression, peut-être pas au niveau du classement, mais au niveau de l'effort collectif, de la tactique collective. Il y a une progression à Chelsea. c'est dû, je pense, au travail de Pochettino, qui est capable, au moins dans le vestiaire, je pense, d'enlier les flûtes de tout le monde. C'est sûr que là, on veut une progression au classement, on veut des titres, on veut une place en Champions League, mais ça commence par une stabilité au poste d'entraîneur puis au niveau du vestiaire, je pense. Donc moi, je garderai Pochettino pour la saison prochaine. C'est sûr que là, si on n'a encore pas de progression au classement l'an prochain, peut-être qu'il va falloir tout changer de bord. Mais pour le moment, je pense qu'on est mieux de garder ça avec Pochettino. Puis d'où, je ne sais pas si vous voulez rajouter de quoi là-dessus, mais il faut arrêter de taper sur le clou de Chelsea. Fait que je voudrais te parler de Van Dijk à la place. Van Dijk qui a été héroïque dans cette finale. Je ne sais pas si tu avais quelques mots sur Virgil. Qui a été dribblé 0 fois en Première Ligue, jusqu'encore cette saison. Mm-hmm. Est-ce que Virgil van Dijk pourrait être dans les conversations au Ballon d'Or? Tiens, alors, je te lance ça. Donc.
Écoutez, c'est le retour du patron. Enfin, Van Dijk, faut se dire, là, il y a une blessure très grave en fin de l'année 2020, là, dans la saison 2020-2021. Là, tu retrouvais avec une blessure aussi difficile que celle des ligaments croisés à 30 ans. C'est après ça revenir au même niveau qu'il avait, parce qu'il faut se dire, là, Van Dijk, là, au moment qu'il s'était blessé, là, c'était le meilleur défenseur au monde, de loin. Ouais. C'était de loin le meilleur défenseur au monde. Et là, après ça, ça lui a pris au moins un bon 2 ans pour trouver un niveau top. Là. Puis là, en ce moment, il y a une saison absolument incroyable. Encore une fois, tu l'as mentionné, il était décisif. Il a marqué 2 buts techniquement dans cette rencontre-là. Bon, son premier but qu'il avait marqué dans la rencontre. Avait été refusé, puis par suite...
Ouais, d'ailleurs, ça, c'était limite, là, la raison pourquoi ils ont été refusés.
Ouais, c'était limite, mais le but n'était pas bon. Le but n'était pas bon, mais c'était limite. Donc, je comprends la décision de l'avance, ce but-là. Mais non, pour Van Dijk, il a quand même une excellente saison cette année. Par contre, pour le Ballon d'Or, ça va être difficile parce que Liverpool n'est pas en Ligue des champions. Fait que, c'est ça qui va peut-être... faire une différence dans le vote. Et des fois, ça arrive. Je me rappelle, je crois que c'était Antoine Griezmann en 2018 où que, oui, il avait gagné la Coupe du Monde. Oui, il avait gagné des titres avec l'Atlético Madrid. Mais vu qu'il a gagné l'Europa League, ça fait que finalement, le Ballon d'Or lui avait échappé parce que l'Europa League, c'est pas la Ligue des champions. Donc, malheureusement, c'est peut-être ça qui peut arriver à Van Dijk. Par exemple, mettons, je donne un exemple. Okay?
Si Liverpool gagne la PL.
Ok, ça. Par exemple, si Liverpool gagne la PL, que Liverpool gagne aussi l'Europa League, que Van Dijk est le meilleur défenseur de la PL cette saison et également meilleur défenseur de l'Europa League. Puis que par la suite, il ne faut pas oublier, il y a l'Euro 2024 qui arrive aussi.
Puis si les Pays-Bas performent bien.
Que les Pays-Bas performent bien, peut-être qu'il va être en considération. C'est ça, c'est peut-être possible. Mais néanmoins, dans cette situation-là, Van Dijk, sa meilleure saison depuis sa blessure, là, je prends à dire ça. Surtout que cette année, c'était sa première saison en tant que capitaine. Donc, moi, je franchement, grand patron. Les statistiques de dribble, faut faire attention avec ça. Les séquences aussi, des fois, ça peut rentrer dans la tête des joueurs. Puis,
c'est pas une statistique qui dit tout, mais ça montre quand même sa qualité de défenseur parce qu'il n'y a personne qui se fait dribbler 0 fois là, sur la planète soccer. Là, fait, c'est
quand même une l'année passée, il y a une séquence où Saliba aussi avait passé plusieurs semaines, voire quelques mois sans se faire dribbler à Arsenal. Mais
là, on est plus loin que ça. Là, il ne s'est pas fait dribbler depuis où? Là. C'est incroyable. Là.
C'est ça, mais on verra qu'est-ce qui se passe. Mais non, pour vrai, franchement, Van Dijk, sale saison. Très content de voir ce grand défenseur-là retrouver son niveau de jeu. Puis surtout, ça fait du bien que Van Dijk retrouve son niveau de jeu parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le critiquaient depuis 2 ans en disant « Ouais, tu peux pas dire que c'est un grand défenseur. Il a seulement eu 2 saisons au top. » Nanana. C'est un grand défenseur, Virgil Van Dijk. C'est un défenseur qui, dans mon livre à moi, a aucune faiblesse dans son jeu normalement. Là. Aucune. Il est rapide.
À part l'an dernier, il n'y a pas eu de mauvaise saison. Là.
Ouais,
et sa blessure, là.
C'est ça. Mais Van Dijk, là, techniquement, à son top niveau, là, je pense que ce gars-là n'a aucune faiblesse dans son jeu. Zéro, je pense. Ouais. C'est mon avis.
Je suis d'accord. Fait que, oui, comme tu dis, là, imaginons que Liverpool remporte la Premier League, remporte peut-être la FA Cup, remporte l'Europa League, que les Pays-Bas sont bons à l'Euro, performent bien, que Van Dijk performe bien à l'Euro. Il est clairement dans la conversation parce qu'en ce moment, t'as personne qui est vraiment parti en feu puis qui est comme, OK, c'est clair que lui, il va être au Ballon d'Or. Tu sais, Bellingham est très bon, Griezmann est très bon, mais t'as personne qui c'est comme, OK, lui, il a vraiment des grosses, grosses chances assurées là, de finir premier au Ballon d'Or. Il n'y a rien de clair dans cette course-là. Donc, si Van Dijk, Liverpool et les Pays-Bas performent bien d'ici la fin de la saison, c'est extrêmement tôt pour se prononcer là-dessus. Extrêmement tôt. Mais Virgil van Dijk pourrait être dans la conversation. Et ce serait fou d'avoir un défenseur qui gagne le Ballon d'Or. Ça serait le premier depuis Cannavaro. Là. Puis je pense que ça, on ne va presque plus jamais le voir dans l'histoire du Ballon d'Or, là, un défenseur qui gagne. Donc, ça pourrait être une des dernières grosses chances après 2019 encore Van Dijk. Donc, ça serait exceptionnel de voir ça. Et si tout se met en place, il aurait des chances, je pense. Mais bon, assez parlé. Oh, ouais, vas-y, Hans.
Non, je suis en accord avec ce que tu disais.
Ah, t'avais. Parfait. Good. Super. Ben, assez parlé de Liverpool, même si j'aime beaucoup parler de Liverpool. On va passer à la Ligue des Champions cette fois-ci. Ligue des Champions, donc, c'était les huitièmes de finale aller. Pas grand spectacle à se mettre sous la dent, malheureusement. J'en parlais avec Dou qui disait qu'on s'attendait un peu à ça. En effet. Mais bref, on aurait aimé quand même un peu de spectacle. Bon, on a eu 2 buts par match maximum, mis à part le match contre Manchester City. Donc, même au niveau des buts, c'était pas exceptionnel. Manchester City qui gagne 3-1 contre Copenhague. Real Madrid qui gagne 1-0 très serré cette rencontre contre Leipzig. Sociedad et Mbappé qui perdent. Ouais, Mbappé qui est le PSG qui gagne 2-0 contre la Sociedad, désolé. La plus grosse histoire, je pense, c'est la Lazio qui défait le Bayern 1-0. D'où, je ne sais pas si tu veux nous en glisser un mot sur ces déboires du Bayern, qui ont perdu également contre le Bayer Leverkusen. Là, donc, ça va pas bien en Ligue des Champions, mais ça va pas bien en Bundesliga pour le Bayern.
Ouais, sûrement. Ouais, écoute, on va parler rapidement du Bayern. Moi, je voulais parler de la masterclass de mon ami Dayo Upamecano. Qui a eu 2 cartons rouges en 3 jours, faut se le dire. Ça, c'est honnêtement, c'est du jamais vu. C'était quelque chose d'assez triste, mais non, pour vrai, blague à part, c'est quand même triste ce qui se passe du côté de Bayern Munich. On sent qu'il va avoir un gros été et beaucoup de remises à question à se faire du côté du Bayern depuis 2 ans, en fait. Là. Tourelle va quitter. Là, on le sait qu'il va y avoir quelques joueurs qui vont quitter probablement à la fin de la présente saison, là, que ce soit Davies. Que ce soit probablement aussi, tu sais, je m'attends à peut-être Kimmich aussi qui va partir. Là. Il y a eu des rumeurs aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars, qu'il y avait des rumeurs de Kimmich au Paris Saint-Germain.
Oui, des grosses rumeurs.
Tu sais, c'est que tu perds un Kimmich, tu perds un Davies, tu perds certains gros joueurs qui étaient là et pas plus tard qu'il y a 4 ans, quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Il va y avoir beaucoup de questions à se poser du côté du Bayern. Et malheureusement, du côté du Bayern, qu'est-ce qui fait mal, c'est surtout les contre-performances dans les pires moments. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils ont battu Leipzig week-end dernier 2-1, mais à part de ça, là, c'était 3 défaites consécutives. Là. Toute compétition qu'on fait
par Bochum, Leverkusen et c'est vrai.
Perdre 1-0 contre la Lazio de Rome à Rome. Et aussi perdre contre le VFL Bochum, ça c'était des grosses défaites du style. Et en plus, avec
Bochum, c'est inacceptable.
Ça c'est totalement inacceptable, comme tu l'as dit. Et c'est triste pour Harry Kane qui quitte Tottenham pour gagner des titres avec le Bayern. Le Bayern qui, ça fait plus de 11 ans qu'il gagne des titres à chaque année, gagne surtout la Bundesliga depuis 2013. Donc, maintenant qu'il va probablement se retrouver sans titre. À la fin de la saison. Là. Moi, je suis vraiment surpris qu'il se rende jusqu'au bout à la Ligue des Champions. Puis là, en ce moment, on se retrouve quand même à 8 points derrière le Bayern de Leverkusen. Donc, non, c'est très décevant du côté du Bayern. Et aussi, la statistique qui veut tout dire dans cette rencontre-là contre la Lazio de Rome, 0 tir cadré. 0 tir cadré de la part du Bayern. Ça, c'est inacceptable. Si on parle du Bayern de Munich, on parle pas de Copenhague. Là. Moi, je trouve ça inacceptable comme stats pour le Bayern.
Tout à fait. Puis tu parlais de Kane en Bundesliga. C'est 27 buts en 23 matchs, ce qui est un rythme d'enfer. Et donc, il reste 11 matchs. Puis le record de Lewandowski, c'est 41. Fait que ça lui prendrait 14 buts en 11 matchs pour l'égaler. C'est faisable, c'est difficile, mais c'est faisable. Fait qu'imaginez que Harry Kane remporte, battre le record de buts dans une saison de Bundesliga de Lewandowski, mais perdre le titre avec le Bayern, ce serait. J'aurais rarement vu une histoire ben, drôle si t'es un hater de Harry Kane, mais triste pour le joueur qui accomplit tellement, mais encore une fois, n'aurait pas de trophée. Pour revenir sur la Ligue des Champions, bon, Dortmund et PSV qui se sont neutralisés 1-1. Le gros match qu'on attendait peut-être entre l'Inter et l'Atlético, ben, il n'y a pas eu tant de gros matchs que ça. L'Inter qui gagne 1-0. Porto-Arsenal, ce serait une autre grosse histoire de cette première journée. Arsenal qui, elle aussi, n'a pas cadré de tir, si je ne me trompe pas.
Ouais, exactement. Mais écoute, pour Arsenal, c'était un premier match à phase éliminatoire en 7 ans.
Ouais.
On connaît les déboires d'Arsenal à l'extérieur, surtout en Ligue des Champions cette saison.
Ouais.
C'est des choses qu'il a aimées. Par contre, malheureusement, notre ami Thomas ne pouvait pas être là parce qu'il est malade. Mais à sa défense, puis moi, je pense que ça va être ça. Je m'attends à ce qu'Arsenal gagne facilement le match retour à l'Emirates Stadium. Je suis pas mal certain de ça.
Moi aussi, je suis assez certain. Arsenal, en fait, on le voit, c'est soit des défaites difficiles comme Porto, ou c'est des 5-0, 4-1, des trucs comme ça là, du côté d'Arsenal. Même battu Liverpool récemment 3-1 dans un match qu'ils ont dominé. Donc, Arsenal, c'est un ou l'autre, j'ai l'impression. Mais moi aussi, je pense qu'ils vont dévisser les pauvres Porto lors du prochain match. Mais oui, Hans, d'abord, est-ce que tu veux nous parler de Naples-Barcelone qui a été terminé 1-1, but de Osimhen et Lewandowski? Probablement le duel le plus intéressant là, de ces huitièmes de finale.
Ouais, c'était un duel intéressant, mais encore là, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une fois que le Barça a pris l'avance, je pense que Napoli n'a pas tant stressé. On n'a pas vu de peur dans leur jeu. Ils ont continué à jouer leur jeu et à attaquer jusqu'à temps qu'Osimhen marque le but égalisateur. Donc, c'est encore un match nul. Ça va se jouer sur le match numéro 2. Le Barça n'a pas été mauvais. Ils n'ont pas mal commencé le match. Ils n'ont pas ni mal joué. Contrairement à leur précédente sortie, là, on voyait un Barça plus fébrile. Mais pour l'instant, dirais, ça se replace. Par contre, c'est vraiment... on va avoir un bon indicateur de l'équipe là, puis des autres équipes en Ligue des Champions vraiment lors du deuxième match où ça va être vraiment plus décisif. Donc j'ai hâte de voir comment le Barça va réagir, comment Arsenal va réagir. Le Real aussi qui a juste gagné 1-0 contre Leipzig. Il y a l'Atletico. Donc c'est vraiment... on n'a pas eu beaucoup de choses de fantastique lors de la première journée, mais lors de la deuxième, c'est là qu'on va pouvoir voir beaucoup plus... de jeu, puis voir c'est quelle équipe qui peut vraiment prétendre au titre, parce que c'est dans les matchs, c'est important que c'est qu'on voit les vraies équipes.
Ouais. Puis, par contre, moi, je suis un peu inquiet pour le FC Barcelone, parce que cette saison, le Barça a beaucoup plus de la misère à domicile, puis il faut se rappeler que le Barça ne joue pas comme nous cette saison, donc ça risque... D'habitude, le Barça avait ce luxe-là de dire « Ok, on va juste au Camp Nou, c'est un immense stade, 100 000 personnes de terrain, il est long en plus. » Donc, tu sais, ils avaient cet avantage-là de se dire « Ok, on va faire peur à l'équipe adverse à LDC », mais malheureusement, ils n'ont pas ça. Donc, ça va être extrêmement difficile pour l'FC Barcelone. Puis surtout que, comme tu l'as dit, Hans, le Barça n'a pas joué un mauvais match. J'ai l'impression que c'est vraiment... ils ont juste pris à la légende Naples après avoir marqué le premier but, le but de Lewandowski, puis que ils n'ont pas pu profiter d'une équipe de Naples qui est malade là, cette saison, là, c'est le cas de le dire. Là. A eu 3 entraîneurs. On congédiait leur entraîneur quelques heures avant le match. Donc, tu sais, non, moi, de voir cette performance-là du Barça, je trouve ça un peu inquiétant, pour ne pas vous mentir. Là. Je trouve que le Barça, cette saison, c'est un peu décevant. Surtout après la saison que... qu'ils avaient joué l'année passée, là, gagné la Liga et tout. Là. C'est une équipe qui était prometteuse, puis malheureusement, en ce moment, juste de la misère, puis là, ils vont se retrouver sans entraîneur à la fin de la saison. Encore une fois, des problèmes d'argent, donc ça risque d'être un mercato un peu plus difficile pour le Barça après la saison
2023-2024. C'est bien, ils vont très, très mal. Encore plus du côté de Napoli, là, 9e en Serie A, donc... c'est deux équipes qui se cherchent, un peu moins le Barça, je dirais, que Napoli. Mais ouais, c'est ça, ça va être intéressant de voir lors de la deuxième journée parce que c'est deux équipes qui tremblent un peu.
Ouais. Napoli, c'est vraiment, je regarde souvent leur fait saillant, c'est souvent manque d'opportunisme parce que dans le jeu, ils sont encore intéressants. C'est juste, on n'a pas cette petite touche magique qu'on avait l'an passé. On a Osimhen aussi qui a été blessé pendant un bon bout de temps, qui a été à la CAN également. Donc, ouais, puis du côté de Barça, très beau but de Lewandowski, ceci dit. Là, Lewandowski qui a qui met moins de buts qu'il en mettait avant, mais est capable d'être un excellent avançant tout de même. Puis, vous l'avez dit, là, le fait qu'il ne joue pas dans leur stade au Camp Nou, 90 000 personnes, c'est un énorme désavantage, certainement. Et défensivement, ça ne va plus pour le Barça, surtout en Liga. Donc, pour le reste de cette Ligue des champions, ça va se passer la semaine prochaine ou dans deux semaines. Pour ce qui est des matchs de la semaine prochaine, Bayern-Lazio, Paris, Real Sociedad, Madrid-Leipzig, Manchester City-Copenhague. Personne n'est à l'abri. Là. Il y a seulement deux points d'écart dans tous les résultats max. Donc, voilà, ça va être à suivre. Et on espère, comme vous l'avez dit, plus de spectacles. Pour ce qui est de l'Europa League, c'est la rentrée là, de Liverpool et de d'autres équipes dans cette compétition. Leverkusen également pour les huitièmes de finale, je parle. Sinon, on a eu des beaux matchs, là, AC Milan-Rennes, entre autres, la semaine dernière. Un 5-3 au pointage cumulatif. Roma Feyenoord également, ça s'est fini au penalty. Marseille qui a gagné. Donc, l'Europa League, ça va être à suivre de près également. Puis, sinon, une autre chose qu'on voulait conclure également, un chapitre qu'on avait suivi dans les derniers podcasts de Jason Balleron, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a pris fin il y a deux ou trois semaines déjà. Mais avant, lors du dernier épisode, on avait parlé des demi-finales beaucoup et de la finale qui était entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et finalement, cette finale, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a remportée au grand plaisir de Douali Ibrahim qui a eu, bon, à sa prédiction, le pays hôte avec tout ce parcours, congédier leur entraîneur, défaite en force de groupe, finalement remporte la CAN. Vas-y, qu'as-tu à nous dire, Douali, sur cette...
Écoute, à part dire que j'ai raison, non, à part, non, vraie blague à part, parcours historique là, de la part de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elle a dit. Bon, comme on l'avait mentionné plus tôt, lors d'un épisode, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une situation tellement délicate là, après la phase de groupe, puis que là, après ça, ils se qualifient grâce au classement des meilleurs troisièmes, réussit toujours à s'en sortir de façon miraculeuse à chaque match. Surtout que la Côte d'Ivoire a affronté des gros adversaires après dans la ronde éliminatoire, là, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Nigeria en finale, que ce soit la Guinée, que ce soit la RDC aussi. Ça a été des gros, gros matchs de la part de la Côte d'Ivoire. Et écoute, une finale absolument incroyable. Là. Et même dans la finale, le Nigeria a quand même marqué le premier but dans la rencontre. Dès la 38e minute. Et par la suite, en deuxième demi, le rouleau compresseur de la Côte d'Ivoire est arrivé. Puis là... Kessié qui crée l'égalité, encore Kessié qui marque un autre gros but dans cette compétition-là. Et Sébastien Haller, quelle histoire absolument incroyable. Il faut se rappeler, le gars avait un cancer il y a un an, a réussi à s'en sortir, est revenu au jeu, et là, réussi à donner la victoire à son pays. C'est une belle histoire, non seulement pour Sébastien Haller, mais aussi c'est une belle histoire pour la Côte d'Ivoire. Donc, parcours magique. Je trouve que c'est un des plus beaux parcours que j'ai vu, moi, à vie là, dans le monde du football, là, de voir une équipe qui était dos au mur et qui réussit non seulement à s'en sortir, mais à aller gagner la compétition chez elle. Donc, c'est toute une histoire de celle de la Côte d'Ivoire. Puis écoute, ça va être intéressant d'en reparler dans plusieurs années de cette édition-là de la CAN parce que c'est, pour moi, la plus belle CAN que j'ai vue à vie. Là, donc, non, franchement, j'ai très hâte... à la prochaine CAN qui va être, je crois, dans deux ans du côté du Maroc. Donc, ouais, c'est vraiment.
Mais je pense chapeau. Que c'est l'an prochain, je pense que c'est 2025.
C'est ça, d'habitude, c'est au deux ans.
2025. Ouais,
c'est 2025. Ça sent bien vite, mais c'est parce que je dis la raison pourquoi j'ai dit deux ans, c'est parce que dans ma tête, c'est la CAN 2023 qui jouait janvier, février, puis que là, maintenant. Va techniquement avoir lieu dans deux ans.
Ouais. Fait que, c'est dans ça. Un an et demi, là, en fait, là, vu que ce sera l'été 2025. Yes. Puis, Côte d'Ivoire, tu l'as dit, très, très, très beau parcours, même que ça me fait penser au parcours de l'Argentine à Coupe du Monde 2022. Ils ont perdu en force de groupe, eux aussi. Seule différence, c'est qu'il y a eu pas mal plus de péripéties dans ce parcours à Côte d'Ivoire, là, avec le coach notamment, puis le fait qu'on était à la maison. Mais comme tu l'as dit,
et pas de pénalty non plus. Et pas de pénalty.
Les pénalties, tout le monde chiale là-dessus, pénalty pour l'Argentine. Je ne suis pas d'accord. Tu regardes les pénalties, sont presque toutes.
C'est ça, t'as dit presque toutes.
Il y en a un qui est discutable, les autres sont tous justifiés. Un qui est discutable. Puis des pénalties discutables, ça arrive tout le temps. Fait que pour moi, les pénalties ne sont pas un vol. On peut clairer ce dossier. Merci.
Okay.
Anne, voulais-tu rajouter sur la Côte d'Ivoire, ce beau parcours?
À l'image de leur CAN dans leur finale, justement, ils ne sont jamais avoués vaincus. Même après, en tirant de l'arrière 1-0 là, contre le Nigeria, ils ont continué à se battre pour aller chercher ce but. Puis après ce deuxième, une fois qu'ils ont marqué leur premier but, c'était une évidence qu'ils allaient chercher le deuxième parce que la foule a commencé à s'élever. Ils ont été portés par la foule. Ça se voyait que tout le monde était uni, tout le monde travaillait ensemble. Au milieu de terrain, ça travaillait fort. Donc, c'est une CAN très méritée à la maison. Et surtout parce qu'ils ont dû faire face à beaucoup d'adversité. Donc, bravo à eux. Là. C'était une belle finale. Puis, dans l'ensemble, une très, très belle CAN parce qu'il y a eu beaucoup de bons matchs, mais beaucoup de beaux jeux, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'équipes favorites qui sont sorties tôt. Ça a changé un peu les prédictions de tout le monde, sauf d'où là qui avait bien prédit la Côte d'Ivoire qui gagnait.
Quel prédicteur!
Ouais.
Mais dans quelle prédiction qui a failli tomber à l'eau assez rapidement.
Ouais, mais c'est la beauté de ta prédiction. Personne ne croyait plus en la Côte d'Ivoire et finalement ils ont gagné. Fait que chapeau.
Merci.
Mais vraiment, la CAN qui est un succès aussi pour son engouement à l'échelle planétaire là, à Chibougamau. Écoute, Chibougamau, il y avait du monde qui célébrait avec des maillots oranges qui chantaient et tout. Donc, ça donne un indice comment cette CAN a eu un impact sur l'ensemble du globe terrestre. Messieurs, si vous n'avez plus rien à rajouter, c'est le temps de mon petit jeu. Vous êtes prêts?
Ah ouais.
Parfait. Ouais. Donc, pour clore l'épisode, on a un autre petit jeu. J'ai un autre petit jeu pour vous. Donc, c'est un classique, vous le connaissez, Starch Bench Sell, ou en français, on pourrait dire titulariser, mettre sur le banc ou vendre. Donc, j'ai trois énoncés pour vous et on va tous pouvoir se prononcer sur qu'est-ce que l'on fait.
Yes.
Alors, le premier, c'est important de dire aussi que c'est sur l'ensemble de la carrière des joueurs. Okay? Donc, pas le prime, pas l'ensemble de la carrière. Puis, il y a certains d'entre eux qui n'ont pas fini de jouer, certains qui ont fini de jouer, mais peu importe, sur l'ensemble de la carrière du joueur.
Mm-hmm.
Eden Hazard, Mohamed Salah ou Gareth Bale?
Oh, c'est dur ça, wow!
À vous, j'en ai fait des bonnes, je pense, j'en ai fait des bonnes. Moi, j'y ai pensé un peu, fait que je peux me prononcer en premier.
Vas-y.
C'est sûr que j'ai un biais au niveau de Liverpool avec Mohamed Salah, mais pour moi, c'est celui que je start entre ces trois-là. Pour la simple et unique raison qu'il a les meilleures statistiques, il a la meilleure longévité. Bale et Hazard ont fini de jouer très tôt, ont été soit blessés, soit maintenus de côté par le Real Madrid. Dans les deux cas, c'était le Real. Salah n'a pas ça. Salah a le même âge que Hazard ou presque. Donc, il est encore dans son prime en ce moment. Encore de très bonnes saisons devant lui. Statistiquement, c'est le meilleur des trois. A des titres également. Oui, il n'a peut-être pas cette capacité à changer un match comme Hazard là. Ça reste que, comme joueur overall, je prends Mohamed Salah. Et comme je l'ai dit, Hazard a cette capacité à changer un match à lui seul. Donc, pour moi, Eden Hazard serait sur le banc. Et malheureusement, je vends Gareth Bale, qui était un de mes joueurs favoris là, à l'époque, là, quand j'ai dans son prime au Real Madrid. Mais ouais, malheureusement, à cause de son manque de sérieux aussi, peut-être, ses déclarations envers le Real Madrid, c'est un peu un manque de respect envers un gros club. Qui, même si c'était drôle, ces messages avec le golf et les Pays de Galles, ben, ça fait un peu le baisser dans mon estime. Puis aussi, je trouvais qu'il était pas assez de facettes dans son jeu. C'était très axé sur sa rapidité. Donc, tout ça fait en sorte que Gareth Bale perd un peu des points pour moi. Donc, bref, je start Salah, je bench Hazard et je vends Gareth Bale. Et vous?
Je peux y aller.
C'est tough, hein?
Ben oui, c'est extrêmement difficile. Mais les trois ont des qualités absolument incroyables. Mais moi, je te le dis tout de suite. Moi, je start Eden Hazard. Et je vous dis pourquoi. Parce que moi, Mohamed Salah a pas été ma joueur de PL. Eden Hazard, oui. Eden Hazard avait cette capacité folle de faire qu'est-ce qu'il voulait sur le terrain. Moi, c'est ça qui... C'est pour ça, je comprends que...
C'est ça, ouais.
Je comprends que Salah a un côté... c'est un meilleur buteur, c'est un meilleur... c'est un gars qui a une meilleure longévité, c'est un gars qui se tient plus en forme, c'est un gars qui est plus professionnel que... que Eden Hazard. Mais Eden Hazard, au début, là, puis qu'il soit à Chelsea, là, c'était le meilleur joueur de la Première Ligue. C'est un gars qui pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait avec le ballon. C'est un gars qui était clutch. C'est un gars qui était décisif dans les gros moments. Et Salah, des fois, j'ai peur qu'il parle. Puis c'est ça que je lui reproche depuis longtemps. Puis même, c'est surtout avec l'Égypte que moi, je lui reproche plus d'affaires, qu'il était moins absent. Mm-hmm. Alors que Hazard, il y a eu des gros moments, surtout en 2018, où il était capitaine de sa formation. Si c'était pas de l'équipe de France, la Belgique aurait gagné probablement la Coupe du Monde en 2018. Donc, non, pour moi, je préfère Hazard juste pour le style de jeu. Et surtout que Mohamed Salah, des moments qui étaient pas mal moins altruistes et beaucoup plus individuels. Surtout à l'époque où il était jumelé avec Mané puis Firmino, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Et Eden Hazard, tu peux pas dire qu'il a jamais eu un jeu individualiste dans sa carrière. Mm-hmm. Surtout, moi, je pense surtout du côté de Chelsea. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé au Real Madrid? Ben, c'est un manque de sérieux, puis ça crée des blessures, puis bref. Donc, moi, je fais jouer Eden Hazard, je mets Salah au banc, et malheureusement, Gareth Bale, que je le vends. Puis c'est malheureux parce que moi, comparé à toi, je trouve que Gareth Bale a plus de palette dans son jeu que Mohamed Salah. Il marque des coups francs, tire de loin, hyper rapide, robuste. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus rapide des trois, même Gareth Bale. C'est ça qui est fou. Donc,
ouais. Mais c'est vrai qu'il est robuste, mais les coups francs, il est tiré juste au Pays de Galles.
C'est normal. Tu penses que Salah aurait tiré des pénaltys ou tiré qu'est-ce qu'il voulait au Real Madrid? Personne ne veut tirer à part Cristiano Ronaldo au Real. C'est normal.
Non, mais c'est sûr. C'est pour ça que les coups francs, oui, il en a tiré, puis il en a tiré des
pénaltys. Puis il y a Tottenham aussi.
Tout au Pays de Galles.
Et Gareth Bale.
Salah tire les coups francs en Égypte aussi. Là.
Et aussi, il ne faut pas oublier, Salah, parmi les trois joueurs qu'on a mentionnés, c'est le seul qui n'a pas terminé majeur de PL. Gareth Bale, sa dernière année à Tottenham, majeur de PL. Hazard a été majeur de PL, Salah jamais. Donc, c'est peut-être pour ça que...
Mon argument, c'est la longévité et qui a été le plus utile dans sa carrière à ses équipes. Pour moi, c'est Salah. Et longévité, on le voit...
Ah, mais plus utile, ça, c'est débattable. C'est plus débattable parce que pour moi...
Selon moi.
Pour moi, Hazard à Chelsea était plus utile que Salah à Liverpool. Ça, c'est mon avis. Mais bref.
C'est débattable. Mais bon, laissons Hans se prononcer maintenant.
Ouais, ben si... Toi, tu t'as dit sur l'ensemble de la carrière des trois joueurs. C'est ça là, qu'il faut se baser?
Exactement.
Si on se base sur l'ensemble de la carrière, ça veut dire tout ce qu'ils ont fait, ben, c'est sûr que Salah a un avantage sur les deux autres. Mais moi, pour de vrai... quand je pense ensemble à la carrière, je pense à leur meilleur ou peu importe. Pour moi, dans un 11 partant, je mettrais Eden Hazard. Là, parce que qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr que la fin de son parcours à Chelsea, c'est pas au Real, c'est pas représentatif de sa carrière au total, mais c'est un joueur qui a fait rêver là, quand même. Là, faut... Tout comme ça, là, puis Gareth Bale aussi, mais j'ai plus un penchant pour Eden Hazard puis son style de jeu à lui. Après, c'est sûr, je mettrais Salah sur le banc, puis Gareth Bale, je le vendrais. J'ai rien à enlever à Salah, puis à Gareth Bale, c'est juste peut-être par préférence de style de jeu.
Oh, oui.
Je trouve que le côté peut-être individuel de Salah, ça me refroidit un peu plus, mais je trouve que c'est un joueur qui est capable de marquer en déséquilibre ou de plusieurs façons, il va vite. Puis Gareth Bale, c'est plus un autre style d'ailier, donc... Je me rapprocherais plus du style de Hazard pour le faire commencer, puis Salah comme remplaçant, puis je vendrais Bale. Mais comme vous avez dit, là, tous vos arguments sont valables. Je pense que c'est plus côté préférence que ça penche.
C'est peut-être mon cas aussi, en fait.
Comment?
C'est peut-être mon cas aussi que c'est plus une question de préférence que d'objectivité. Et c'est surtout le fait que moi, je me base surtout sur ce que les anciens joueurs de Première Ligue disaient, et la majorité disait que Hazard était plus fort que Salah dans son style de jeu.
Moi, je me base sur ce que je vois, là, honnêtement, sur ce que j'ai consommé. On parle de style de jeu. Clairement que le style de Hazard est plus le fun à voir et plus spectaculaire. Mais tu regardes après ça la carrière, tu regardes les chiffres. Hazard n'était pas si décisif en termes de chiffres, en termes de nombres, en termes de statistiques qu'il mettait, buts et passes décisives à chaque année. Contrairement à Salah, tu regardes son ratio de buts de contribution en début comparé à Hazard, Salah le clenche de beaucoup. Là. Donc, il y a ça qui est un gros truc dans la balance pour moi. Et il y a aussi la longévité. Je suis désolé, mais finir une carrière à 29-30 ans, quand tu aurais pu avoir 3, 4, 5 autres belles années, mais que ton manque de sérieux fait en sorte que tu te blesses plus, que tu n'es pas impliqué, que ça ne tente pas tant que ça de jouer au soccer pro. Mais moi, ça me blesse, ça me fait chier comme partisan. Et donc, ben ça baisse beaucoup Hazard dans mon estime. Même si je trouve que oui, à la base, à Chelsea, c'est un plus beau joueur, un des meilleurs joueurs, un des plus beaux joueurs en termes de style de jeu que la PL a vu. Mais en raison de ce que j'ai mentionné, je dois le mettre sur le rang. Mais bon, j'en ai deux autres énoncés, fait qu'on va passer au prochain. Yes. Mais ça donne des très beaux débats, les gars. Fait que je suis content de ça. Et je vois aussi que Gareth Bale, les trois, on l'a vendu, ce qui est impensable dans la vie de tous les jours. Mais quand tu le compares à Hazard et Salah, c'est ça qui arrive. OK, deuxième énoncé. Andrea Pirlo, Sergio Busquets ou Toni Kroos?
Ben, c'est compliqué parce que pour moi, Sergio Busquets, c'était même pas dans la même catégorie que ces deux autres. Là. C'est pas le même style de jeu.
C'est pas nécessairement, ben non, mais c'est
mais moi, je vais aller. Non, non, pas, moi, je vais aller tout de suite. Moi, je vais aller tout de suite. Là. Pour moi, Andrea Pirlo est clenché deux. Là. Pour moi, c'est Andrea Pirlo qui démarre. Pour moi, c'est Toni Kroos qui est sur le banc et je vends Busquets. C'est controversé, qu'est-ce que je dis, mais la raison pour laquelle je vendrais Busquets, c'est que pour moi, si tu le retires de Barcelone, je ne suis pas certain qu'il peut jouer n'importe où. C'est vraiment un style, c'est un génie, mais c'est vraiment un gars qui fonctionnait bien dans le style du jeu du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne à l'apogée de ces deux équipes-là. Ouais. Donc, c'est peut-être plus dans ce sens-là. Parce qu'on l'a vu, Sergio Busquets, dans ces dernières années à Barcelone, comment c'était difficile de le voir jouer. Andrea Pirlo, c'est un génie. C'est pas compliqué, c'est un génie. C'est un gars qui pouvait contrôler le jeu. Comme un peu Toni Kroos peut le faire aussi. Toni Kroos, c'est sa qualité de passe, surtout qui, moi, m'a toujours épaté. Là, son efficacité de ses passes. Plusieurs saisons, plus 90% de passes réussies. Ça, c'est fou. Mais pour moi, Andrea Pirlo, c'est la masterclass, c'est champion du monde, c'est domine la Serie A, c'est autant il a dominé avec l'AC Milan, le grand AC Milan d'Ancelotti, et aussi il a dominé avec la Juventus. C'est ça, on oublie. Ouais. Qu'est-ce qui est assez fou avec Andrea Pirlo, là, c'est qu'en 2011, il quitte librement du côté de Milan pour aller à la Juventus. Ouais. Et le monde disait qu'il était fini.
Ben, c'est parce qu'Allegri ne l'avait pas fait jouer. Non,
c'est ça, du côté de l'AC Milan. Et par la suite, il arrive avec la Juventus gratuitement et ses trois premières années, trois fois meilleur joueur de Serie A. C'est pour vous dire à quel point ce gars-là, il est ailleurs. Là. Donc, pour moi, c'est Andrea Pirlo que je démarre à coup sûr. Toni Kroos qui est sur le banc. Et je suis désolé, mais Sergio Busquets, moi, je le vends. Et ça peut être controversé, mais c'est pas grave. C'est mon avis.
Anne, je ne sais pas si tu as ta réponse. Là.
Ouais. Moi, c'est vrai que c'est pas le même style de jeu, mais c'est trois joueurs qui se ressemblent quand même parce que c'est pas des gars qui vont couvrir beaucoup de kilomètres, mais ils vont laisser leur intelligence faire le travail plus que leur capacité physique. Là. Fait, moi, je pense.
Et Busquets et Pirlo, c'est vraiment la même position. Là.
Ouais, c'est ça. Puis Kroos un peu plus avancé sur le terrain, mais là, ça ne change pas grand-chose. Je mettrais sur le jeu Busquets parce que c'est, honnêtement, là, quand j'y pense, c'est vraiment trop, je dirais même fou là, de voir à quel point quelqu'un peut être aussi bon sous pression, mais que ça paraît même pas. C'est juste sa qualité à se défaire de la pression avec un petit mouvement, mais qui est au ralenti, puis que ça déstabilise toute une défense, capable de couper des lignes. C'est sûr que ce n'est pas le gars le plus athlétique, mais Pirlo et Kroos non plus. Je commencerai avec lui justement juste pour son intelligence de jeu qui, selon moi, est au-dessus de, des deux autres. Puis techniquement,
c'est controversé de dire ça. Là.
Et je veux dire, toutes les réponses sont bonnes avec ces trois-là.
Controversé, le dire que Busquets a une plus grande intelligence de jeu qu'André Pirlo, c'est faux, faut le faire. Là.
Mais je pense. Mais je comprends ce que Hans veut dire, honnêtement.
Je pense pas que c'est tant controversé. Si tu si as regardé Busquets jouer, tu sais que son niveau, son QI de
fou. Ah oui, non, il est incroyable. Au-dessus
de la moyenne, comme de loin, là. Tu sais? Comme Iniesta puis Xavi, ce genre de milieu espagnol-là, là, c'est vraiment comme vraiment fou. Après, tu sais, c'est encore là, ça peut être controversé, mais je pense qu'il est dans une classe à part, là, selon moi. Puis, je mettrais Pirlo sur le banc et Kroos, je le vendrais parce que Pirlo, je pense qu'il est capable de faire un peu plus que Kroos, selon moi. Là. Juste pour ça.
Écoutez, les gars, je pense qu'on va avoir trois des réponses différentes. Parce que moi, écoute, c'est, vous apportez des très bons points, là, mais niveau de Pirlo qui est champion du monde, les trois le sont, honnêtement. Mmh. Fait que,
non, mais on ça, parle de l'impact. Je parle de l'impact. L'impact ben, de,
Toni
de
Kroos Pirlo. Avec l'Allemagne, Coupe du Monde 2014. Et, il y en a eu dans Tabarnan.
Les trois ont eu un impact.
Non, mais.
Les trois ont un sale impact, là, honnêtement. Là.
Ouais. Les gars, donc, vous êtes jeunes. C'est la preuve que vous êtes jeunes. Parce que écoute, pour elle, si tu mets des gens de mon âge et plus vieux, dans aucun monde, tu mets Pirlo en bas des deux autres. Dans aucun monde.
Mais je pense pas à ça, Dou. Je pense
moi, je pense
que les trois se défendent. Là.
Oui, les trois se défendent. Mais c'est, en tout cas, c'est mon avis.
Pirlo, c'est vrai qu'à l'AC Milan, je ne l'ai pas beaucoup joué. J'étais jeune. Puis c'est vrai que Il a dominé en Italie, autant comme tu l'as dit, autant avec Milan, avec la Juventus. Il a eu une baisse de régime dans sa carrière quand il est parti de Milan. Est-ce que c'est la faute du coach, comme je disais, je ne sais pas. Ce que les deux autres n'ont pas eu. T'sais, ça, c'est déjà un avantage envers Busquets et Kroos. Par exemple, oui, Pirlo a dominé. Oui, Pirlo, la définition de maestro, c'est Andrea Pirlo. Mais moi, ce qui me met Kroos en avant de ces deux gars-là, c'est sa précision de passe. Toni Kroos a, je pense, le joueur qui a le plus de passes réussies en termes de pourcentage sur l'ensemble de sa carrière. Je pense qu'il est à près de 95%. C'est incroyable. Ça veut dire que 95% de ses passes sont réussies quand il les fait. Ça veut dire presque jamais de perte de ballon. Ça veut dire 95% des actions qu'il fait, ça amène à du positif du côté du Real Madrid. Donc, ça, pour moi, c'est une statistique exceptionnelle. Puis, c'est lui que j'ai le plus vu jouer. Là, donc, ça clairement qu'il y a un biais de mon côté. Mais on parlait de Coupe du Monde en Allemagne. La Coupe du Monde où l'Allemagne a remporté 2014. Kroos était un monstre. Busquets et Pirlo l'ont été également, c'est vrai, leur année. Mais bref, moi, j'irai avec Toni Kroos pour starter. Pirlo, j'ai pas le choix de mettre sur le banc Pirlo. Parce que Busquets, c'est un génie d'intelligence de jeu. Je suis d'accord avec Hans. Mais c'est au niveau du style de jeu que j'ai plus de misère avec Busquets. T'as raison, sous pression, il est tellement bon. On s'en rend même pas compte comment il est bon. Mais il est lent. C'est pas lui qui va faire le plus de belles relances dans le dos de l'adversaire. Ses passes sont pas les plus impressionnantes comme celles de Kroos ou de Pirlo pouvaient l'être. Donc, niveau plaisir à le regarder jouer, c'est lui que j'en ai le moins. Donc, c'est pour cette raison que je le vends, mais est-ce qu'il est vraiment moins bon que les deux autres? Je peux pas dire ça. C'est juste mon appréciation personnelle, c'est Kroos sur le jeu, Pirlo sur le banc et Busquets vendu. Mais c'est tellement tough, là, j'hésite encore. Mais encore une fois, vous voyez les gars, Dou semble être complètement décontenancé par nos choix.
Non, c'est juste que ces gars-là, c'est des génies. Mais je vous dis, Pirlo, c'est pour moi, c'est honnêtement, c'est une classe à part. C'est une classe à part. Tu parles de beaux jeux. Pour moi, de ces trois-là,
ouais,
c'est de loin.
Ouais, ça, c'est maestro. Maestro, c'est vrai.
Ce gars-là.
J'hésite beaucoup en Pirlo et Kroos, là, honnêtement. Et, mais Kroos, 95% ou quelque chose de même, c'est incroyable.
Non, ah
c'est
oui, oui.
Son tour de passe réussi, c'est incroyable. Je ne sais même pas s'il y en a combien de joueurs ils sont en haut des 90, là, en tout cas. Bref.
Pas beaucoup.
C'est ça. Donc, voilà, un autre beau débat. Et il nous en reste un dernier, messieurs. Harry Kane, Robert Lewandowski ou Didier Drogba?
Ouf!
Aïe, 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 ça c'est dur!
Tough, hein?
Ben, moi, je sais déjà qui que je vends, là. Mais c'est, pour moi, Harry Kane, c'est ciao, là. C'est clairement celui que je vends. Mais après ça...
Wow. OK, moi, je vais me prononcer, là. En fait, je sais même plus. Ouais, OK. Je vais y aller. Oui, je vends Harry Kane, comme vous deux, je pense. Cependant, Harry Kane est encore dans son prime de loin. Encore, je pense, plusieurs grosses années de foot comme étant l'un des meilleurs strikers au monde devant lui. Je pense qu'il pourrait clairement finir deuxième ou troisième dans cette deuxième ou premier dans cette liste-là à la fin de sa carrière, mais sa carrière n'est pas finie. Donc, c'est à voir. Il faut qu'il ajoute des titres pour monter, c'est clair. Il pourrait le faire avec le Bayern. Et il est un des strikers les plus constants depuis presque 10 ans. Donc, faut faire attention pour ça. Mais pour le moment, sur l'ensemble de sa carrière, je le vends. Ensuite de ça, on a Didier Drogba, Lewandowski. Pour la simple raison que Lewandowski, selon moi, est censé avoir deux ballons d'or. 2021, vol de Messi. 2020, il n'y a pas eu de ballon d'or. Pourquoi il n'y en a pas eu? C'est illogique, mais ça aurait dû être à Lewandowski, clairement, en 2020. Donc, pour cette raison-là, et pour aussi le fait qu'il est un avant-centre prolifique qui a battu le record de Gerd Müller en Bundesliga, 41 buts en 34 matchs, alors que le football est moins ouvert que dans le temps de Gerd Müller, c'est complètement exceptionnel, ça. Voilà, parce qu'il est un des meilleurs avant-centres remportés des Bundesliga. La Pologne, le fait qu'il soit en Pologne, ça ne va être pas au niveau national, mais bref, voilà. Donc, Didier Drogba aussi, que j'ai un attachement pour l'Impact de Montréal, fait des grandes choses à Chelsea, un des meilleurs avancants de sa génération lui aussi, mais n'a pas atteint, je pense, le niveau de Lewandowski dans sa carrière, c'est-à-dire deux ballons d'or. Donc, je start Lewandowski, je mets sur le banc Didier Drogba et je vends Harry Kane et je laisse le bémol qu'Harry Kane, faites attention parce que sa carrière est loin d'être finie, donc ce serait mon choix. Hans?
Ouais, moi, pour de vrai, je suis d'accord avec ta liste, mais à y repenser, Didier Drogba, c'est pas un mais je trouve pas que c'est Didier Drogba, c'est un meilleur marqueur qu'Harry Kane. Puis je trouve que
Tu trouves pas ou tu trouves?
Non, je trouve pas que c'est un meilleur marqueur qu'Harry Kane.
Non, je pense qu'Harry Kane est
le meilleur qualité. La seule différence que je trouve que c'est Drogba, tu sais, il a la gêne d'être clutch, là, d'être décisif dans les grands moments. Et je pense que c'est ça qui donne l'avantage contre Harry Kane. C'est pour ça que je vendrais Harry Kane, je mettrais Drogba sur le banc. Aussi parce qu'il amène d'autres qualités, tu sais, sa puissance, puis il est très athlétique, là. Je pense que c'est des profils différents comme attaquant, donc je le mettrais sur le banc. Puis Lewandowski, ben, tu l'as très bien décrit, je n'ai pas besoin de parler de lui, il mériterait deux ballons d'or. Puis aussi, tu sais, c'est une machine à but, là, qui est quasiment. Là, juste le match où il est rentré en 9 minutes, il a mis 5 buts, ça veut tout dire, là, pour moi. Donc, ça, c'est sans aucun doute que je mets Harry Kane, Lewandowski sur mon 11 partant.
Puis tu vends Kane, c'est ça?
Ouais, exact.
Ok, parfait. Donc, ouais, es-tu le même que nous?
Non, moi je démarre Drogba avant Lewandowski. Je suis désolé, mais pour moi. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour moi le côté clutch est plus important. Passe ici, OK? Si vous avez besoin d'un gars, OK, entre ces trois-là, OK, tu dis, OK, ma vie en dépend. Faut que ce gars-là marque dans ce match-là. Je vous le garantis que 90% du temps, je prends Drogba avant les deux autres. C'est prouvé.
Dans un match, je prends Lewandowski.
Mais non.
Tu me demandes dans une finale, dans les 5 dernières minutes. Ouais. OK, peut-être Drogba. Mais tu me demandes qui va marquer dans un match Lewandowski.
Les gars!
Mais oui, parce que, écoute, admettons, dans une saison, c'est qui ton attaquant que tu veux aller avec? Drogba va te mettre peut-être, en 38 matchs, il va peut-être te mettre 13, 14 buts, tandis qu'un autre peut t'en mettre 35. Ça veut tout dire. Oui,
parce qu'il joue en Bundesliga. Drogba joue dans une des périodes les plus chaudes de la Première Ligue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Première Ligue que Drogba a joué.
Lewandowski est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ce n'est pas juste la Bundesliga.
C'est la Ligue des Champions.
Le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions.
Regardez le nombre de buts qu'il a marqué en phase éliminatoire. Faut arrêter.
Ton argument ne tient pas parce que là, Harry Kane, c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Alors, tu prendrais
Harry Kane. C'est pas mieux. On parle d'un gars qui... Guys, le gars... on parle de Drogba. On parle d'un gars qui va plus rester dans la mémoire des gens que Lewandowski. Je comprends qu'à un moment donné, vous parlez
Lewandowski,
des stats, des stats,
en temps normal,
stats,
avec deux ballons d'or, s'il les avait eu comme il aurait dû les avoir,
il y en a pas,
aurait
y en a
été
pas,
plus dans la mémoire des gens que Drogba. Je suis désolé, Dou. Il a joué à l'Impact, c'est peut-être pour ça qu'il est plus dans notre mémoire. Mais
non!
Lewandowski est dans la mémoire des gens plus que Drogba, je pense.
Non, non, je pense pas. Ça, je parle pas avec ça. Je pense pas. On parle d'un gars.
Je demande à tous les fans de soccer qui est les. Donne moi, mettons, les strikers qui deviennent le plus à l'esprit. Pas mal sûr que Lewandowski vient avant Didier Drogba. Je suis
ouais,
désolé.
Ouais, pour les moins de 30 ans, oui.
Ok, ben alors. Pour toi, Drogba, c'est un meilleur numéro 9 que Lewandowski?
Pour moi. Drogba joue dans une époque plus difficile.
Ah non, mais seulement dans la même époque, est-ce que Drogba, c'est un meilleur numéro 9 que Lewandowski?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il peut faire plus de choses que Lewandowski dans son époque. Oui. Tu penses sincèrement que Drogba qui peut faire. Drogba qui était, by the way, meilleur à la tête, meilleur aussi en, pour des retournements, des situations de contrôle, là, que tu arrives, boum, un appel, tu frappes. Il était meilleur que Lewandowski.
Oh, ben, meilleur, Lewandowski est très, très bon pour ça. Meilleur,
je vous le dis, mettons devant ça comme Nemanja Vidic ou Rio Ferdinand ou John Terry soit en Lewandowski, comparé à Drogba, je vous le dis, Lewandowski marque moins de buts qu'on pense. Faut arrêter. À un moment donné, on a vu que les joueurs de Bundesliga, dans une ligue qui est beaucoup plus ouverte, où tu peux plus t'exprimer facilement, ils arrivent en, je veux dire, en première ligue. La majorité du temps, à moins que tu t'appelles Erling Haaland, tu as plus de difficultés parce que tu as moins d'espace, c'est plus difficile, c'est plus rude défensivement. Tu sais, c'est normal. Depuis quand que tu ne vas jamais voir un gars en première ligue marquer 40 buts, là? C'est impossible. Tu sais, t'as vu Erling Haaland qui a marqué 35. Peut-être que lui, il va y arriver parce que ce gars-là, c'est un monstre. T'es physiquement, c'est un monstre. Mais pour moi, un gars, tu compares un Didier Drogba qui jouait dans une époque de la première ligue qui était beaucoup plus difficile, ou que c'était beaucoup plus. Ou que la concurrence était beaucoup plus forte entre les équipes, à un gars qui a joué avec le Bayern de Munich en Bundesliga dans une ligue où que le Bayern domine. Je sais pas, c'est là que c'est peut-être pour ça. Et aussi, je suis désolé, mais si tu regardes l'impact de Drogba avec la Côte d'Ivoire, qui est celle de Lewandowski qui est inexistante avec la Pologne, à un moment donné.
Mais la Pologne joue à l'Euro. On parle de la Côte d'Ivoire.
Mais la Côte d'Ivoire est meilleure que la Pologne.
Oui, et c'est aussi, c'est plus facile de se démarquer à la CAN qu'à l'Euro. Là.
La Pologne, il y a
tellement d'équipes meilleures qu'eux à l'Euro, tandis que la Côte d'Ivoire est parmi les meilleures équipes africaines. C'est pas la même chose.
OK, mais dans ce temps-là, on peut revenir à l'autre affaire. Salah, il n'a rien gagné avec l'Égypte. Pourtant, l'Égypte, c'est l'équipe épistrée, non? Ben voilà.
Ouais, mais, OK, mais là, Salah, tantôt, c'était comparé à Hazard et à Bale. Fait que,
non, mais c'est juste
pas dans le même débat.
C'est juste pour vous dire que Drogba, on parle d'un gars qui a quand même arrêté une guerre civile, gars, vous vous rendez compte? On parle d'un gars qui.
Ouais, mais là, on parle d'un gars sur le terrain, d'où on parle pas du gars. Le gars, il est merveilleux, je suis d'accord avec toi. L'athlète et la personne est incroyable, Didier Drogba, mais là, on parle du joueur sur le terrain. Pour sortir les stats, là, avec le Bayern, Lewandowski, 344 buts en 375 matchs, presque un but par match. Avec Chelsea, Drogba, on parle de 157 buts en 341 matchs à son premier passage à Chelsea. Vous vous rendez compte, presque le même nombre de matchs, 157 buts pour Didier Drogba et 344 pour Lewandowski. C'est
clair,
presque 200 buts de plus. Je suis désolé, mais devant ça, là, tu ne peux pas dire que Drogba est un meilleur numéro 9 que Lewandowski. Peu importe la Premier League, peu importe. Les chiffres sont là. Et en plus, il y a des ballons d'or avec ça. Sorry.
Ben, il n'y a pas de ballon d'or. Il n'y en a pas. Arrêtez.
Il
n'y
en
a pas. Il
y en mérite-tu deux ou il n'y en mérite pas deux?
On s'en fout qu'il y en mérite ou qu'il n'y en mérite pas. Il n'y en a pas.
Okay. Il n'y en a pas. Il n'y en a peut-être pas. Il y en mérite d'abord. Il y en a qui sont invisibles. Pour moi, ils sont là.
Il n'y en a pas. C'est malheureux. Mais je vous dis.
Mais d'où? Si tu penses qu'il y en aurait, ben ça compte.
OK. Attends, moi, je vous pose la question. Parce que c'est intéressant quand même comme débat, OK? Peut-être que j'ai tort.
Ah, mais j'aime ça. Ça s'allume.
J'ai peut-être tort, mais je vous donne l'exemple, OK? On inverse les deux gars, OK? Mais Drogba avec le Bayern de Munich, avec le Bayern de Munich que Lewandowski a joué, mais Lewandowski avec Chelsea, on parle de Chelsea que Drogba a joué, là. Est-ce que vous pensez sincèrement que Lewandowski aurait permis à Chelsea de se rendre au point qu'ils se sont rendus à l'époque où Drogba jouait avec des Peter Sech, avec des Lampard, avec des Jean Terry? Non. Désolé, mais non. Juste
mais
non.
Je veux dire, personne ne peut avoir la réponse à ça. C'est tu mets une situation hypothétique dans une situation hypothétique. Je peux pas savoir ça. Là. Moi, je te parle des faits concrets réels qui sont que dans presque le même nombre de matchs, Lewandowski a presque 200 buts de plus que Didier Drogba. Ça, c'est un fait concret, c'est pas hypothétique. Fait que, genre, moi, c'est ça mon argument, qui est plus dans le concret que dans l'hypothétique. Fait que, that's it.
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est mon avis. Si on me demande qui je préfère faire jouer, moi, je préfère jouer un Drogba qu'un Lewandowski. C'est mon avis personnel.
Mais t'as tout à fait le droit.
Moi, j'ai vu plus souvent Lewandowski rater des grands rendez-vous que Drogba. C'est ça, mon avis. C'est des choses qui arrivent.
Niveau clutch, je te le donne, du final de Ligue des Champions 2012. Mais niveau
c'est la raison principale pourquoi Lewandowski n'a pas gagné Ballon d'Or, guys.
C'est vrai.
C'est la raison principale. Le gars n'a pas eu de gros match. Le gros match dans la carrière
de Lewandowski. 2020, oui.
Mais 2020, ça, c'est comme tu l'as dit, c'est un peu. C'est une saison anormale. Pas de ballon d'or.
Mais il y a eu presque le même nombre de matchs qu'habituellement. Fait que c'est pas tant anormal que ça. Là.
Ouais, ben c'est anormal qu'il n'y ait pas eu de cérémonie. T'sais. C'est plus dans ce sens-là. Il y a eu une comité, il y a eu la pandémie.
Tu regardes le nombre de matchs joués, c'est quasiment le même nombre de matchs joués que sur une saison normale. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de ballon d'or alors que c'était très, très, très clairement Lewandowski qui le gagnait?
Mais tu regarde, c'est mon avis. Bref. C'est mon avis.
Puis honnêtement, je suis content qu'on ait eu ce débat-là. Ça devrait être un extrait, man, Instagram, là, bref.
Le monde va peut-être dire que je suis dans le champ, puis je vais être comme, d'accord, je suis dans le champ, mais tu sais, c'est...
Tu as tout à fait droit à tes opinions, c'est juste que tu ne la partages pas.
C'est correct, moi j'accepte.
Donc, pour terminer ça...
Attendez, guys!
Ok, vas-y.
Moi j'en ai un autre bon aussi!
Attends, c'est ton propre... Ok, vas-y.
Parce que là, on parlait de milieu, d'attaquant. Mais là, il en manque deux. On manque la défense et le goalard. J'en ai deux maintenant. Mais on va commencer avec les gardiens de but. Je vais aller avec le vrai, de vrai.
On va faire vite parce qu'on est à 1h32.
On va aller avec le vrai, ok? Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Manuel Neuer.
Boy de tabarouette.
Mais moi, je peux y aller, je pense. Je vendrais Buffon, je mettrais Casillas sur le banc et Neuer dans mon 11 partant. Pourquoi? Parce que Neuer a révolutionné le poste de gardien de but. Jeu au pied, là, je n'aime pas parler de la Coupe du Monde 2014 qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est un meilleur gardien que Casillas ou Buffon, mais juste parce qu'il avait plus d'aptitude que les deux autres. C'est pourquoi je le mettrais sur le jeu. Puis Casillas, je trouve que c'est un meilleur gardien que Buffon en général. Là, je préfère son style de jeu à Casillas que Buffon.
Je mets Neuer. Ça, c'est sûr que je mets Neuer sur le jeu. Après ça, Buffon, Casillas. Les deux, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Je pense que j'irai avec un petit penchant pour Casillas vu qu'il y a le triplé là, Euro. Euro, Coupe du Monde, Euro, là, mais écoute, Buffon, c'est une bonne réponse aussi, mais j'irai Commands.
Moi, je suis d'accord avec vous pour que Neuer soit dans l'alignement de départ, ça c'est vrai. Neuer, on voit l'impact, le gars c'est un monstre, le gars a des qualités absolument folles, puis une carrière absolument incroyable. Donc, je demeure avec lui. Mais moi, je pense que ça s'équivaut, mais je crois que je vais y aller avec Buffon, moi, au lieu de Casillas. Moi, j'ai remarqué que Casillas a tendance à faire des boulettes, surtout au Real Madrid, et il a été tassé aussi au Real Madrid, ça, faut pas l'oublier. Il a eu des moments ultra difficiles, Casillas, surtout en fin de carrière.
Il a eu des problèmes de santé en fin de carrière, ça, c'est triste.
Et, ça aussi, mais... Ouais. Alors
que pour la longévité, Buffon, c'est sûr que Buffon, ouais.
Mais Buffon, guys, je veux quand même sortir une statistique importante. Le gars a fini... quatrième au Ballon d'Or à 39 ans. Je suis désolé, mais pour moi, il est clairement au-dessus de Casillas. Et Casillas aussi, ça, il faut le faire. Il a joué avec le Real Madrid pendant très longtemps. Ça a été absolument exceptionnel. Et il a aussi été membre d'une équipe de l'Espagne qui était folle. Donc, ça, il faut lui donner ça. Mais moi, vu que j'ai vu plus de moments faibles de la part de Casillas que de Gianluigi Buffon qui a une longévité absolument incroyable. Pour moi, je préfère mieux Buffon comme remplaçant qu'Iker Casillas, mais ça s'équivaut, honnêtement. C'est peut-être juste mon style.
Les deux, c'est...
Ouais, non, honnêtement, ça, je pense que c'est... Toutes les Casillas, Buffon, c'est... les deux réponses sont bonnes. Tu as des arguments pour les deux. Puis c'est tout à fait vrai ce que tu dis sur Buffon. Fait que... Moi, je serais prêt à changer mon truc. C'est pas comme Drogba. Elle...
OK, c'est correct. Pas de soucis. Et là, j'en ai un dernier.
Ouais, un autre.
Okay. J'en ai un autre, OK, parce qu'il y a les défenseurs aussi. Les défenseurs, c'est Sergio Ramos. Maldini.
Ouf, OK.
Et l'autre qui est le dernier, qui on va revenir un peu plus loin, mais qui sonne un bon aussi, c'est Frank Beckenbauer.
Mais le Beckenbauer, j'ai presque rien vu de lui, là, honnêtement. Maldini, c'est le défenseur, le meilleur défenseur de l'histoire pour moi. Donc Maldini est dans mon Spartan, certainement. Ramos, c'est le meilleur défenseur de sa génération pour moi. Donc je le mets. Puis Beckenbauer, je ne l'ai juste pas assez vu. Je suis désolé, Franz. Il n'est pas décédé dernièrement, en plus?
Ouais, pas son âme. Il est décédé au début d'année.
Ah ouais. RIP, Franz. Mais voilà, mais je ne l'ai juste pas assez vu jouer. Je pense qu'il y a 3 ballons d'or, c'est ça?
Ou 2? Je crois qu'il y en a 2, ouais.
Mais bref, il y a des ballons d'or. Fait que ça, c'est exceptionnel. Mais je n'ai juste pas assez vu jouer pour le mettre ailleurs. Fait que j'irais Ramos, qui il n'est peut-être pas réalisé autant que Beckenbauer a réalisé. Mais quel monstre, ce Sergio Ramos, là. On parlait de Van Dijk tantôt qui a toutes les qualités, qui n'a pas de faiblesse. Ramos, c'est un peu ça. En fait, sa faiblesse, c'est qu'il était trop violent, trop sauvage, là, et qu'il pognait des rouges. Là. Ça a été un peu, à partir de, mettons, Ronaldo est parti, ça a peut-être été un peu plus difficile pour Ramos après au Real, mais tout le reste de sa carrière, autant en Espagne qu'au Real, il était très solide, meilleur défenseur de sa génération, quand même de loin pour moi, capable de marquer des buts souvent aussi. Lui aussi a été clutch, le Ligue des Champions 2014. Donc, niveau offensif, Ramos a le dessus sur les deux autres. Puis, Maldini, pour moi, c'est le meilleur défenseur d'histoire. La propreté aussi, mais des tacs toujours bien ajustés. Cette défense de l'AC Milan, cette défense de l'Italie. C'était Paolo Maldini qui gérait ça. Oui, il y avait Cannavaro, oui, il y avait Nesta et bien d'autres. Mais Maldini, moi, c'est l'ADN du défenseur que tu veux dans ton équipe. L'ADN du beau défenseur, c'est Maldini. Donc, je start Maldini, bench Ramos. Et sorry, Beckenbauer, je t'ai juste pas assez vu jouer, fait que je suis présent.
Moi, c'est dur. Moi, je pense... Honnêtement, je vais pas vous mentir. La seule raison pourquoi je fais... Je start pas Beckenbauer, c'est juste parce que je l'ai pas vu jouer. C'est la seule raison pourquoi. Parce que j'ai vraiment l'impression que si tu regardes son palmarès, on parle de 2 ballons d'or, on parle de 3 Ligues des champions, on parle de champion de Coupe du Monde, on parle de gars qui a été aussi champion du monde, champion du monde en tant qu'entraîneur aussi. Pour moi, je pense que normalement, il n'y aurait pas eu de débat. Normalement, Beckenbauer devrait être en avant des deux, si tu regardes sur le palmarès. Mais, comme tu l'as dit, vu que Maldini, c'est la classe, vu que Maldini ne fait pas d'erreur, vu que Maldini est un latéral gauche et qu'il était ambidex, by the way, ça qui est quelque chose d'assez incroyable chez Maldini, et qu'il pouvait jouer en centrale et que, bref, il pouvait un peu faire tout ce qu'il voulait. Moi, je vais faire jouer Maldini, je vais mettre Beckenbauer sur le banc parce que comme ça, il va entraîner l'équipe. Et Sergio Ramos, pour moi, il est sur le banc. Je le vends parce que Sergio Ramos, guys, moi, je l'ai vu Sergio Ramos souffrir par moments. Je l'ai vu souffrir face à Messi, je l'ai vu souffrir face à Ronaldinho. Quand il y a quelqu'un qui est d'une classe à part, Ramos, il souffre. C'est pas le meilleur défenseur que... On parle au niveau de défensif. Même que par moment, Pepe, pour moi, était plus fort défensivement que Ramos au Real. C'est juste que Ramos, vu qu'il était ultra clutch et qu'il marquait beaucoup de buts, ben, ça faisait que ça venait compenser un peu ses carences défensives. Ouais. Comme c'était le cas aussi d'un autre gars à Madrid légendaire qui était en défense, qui était à gauche, qui s'appelle Marcelo, qui lui aussi avait des carences défensives, mais que vu qu'il était tellement fort... comme passeur qui marquait des buts extraordinaires et que surtout, il avait une technique absolument exceptionnelle, mais ça faisait que des fois, ça venait un peu effacer leur petite carence défensive, que ce soit pour Marcelo et Ramos dans ce cas-là. Donc, moi, je pense que je vais rendre Sergio Ramos. Voilà. Mais ça reste que Sergio Ramos, c'est un des plus grands défenseurs d'histoire du foot, à mon avis.
Mais, si j'avais vu jouer Beckenbauer, j'aurais pu vendre Sergio Ramos aussi. J'ai juste aucune idée où le placer parmi Maldini, Ramos et Beckenbauer. Fait que je peux rien faire d'autre que le vendre. Vas-y, Anne, je te laisse.
Ouais, ben, c'est pour les mêmes raisons que toi là, que je vais mettre la même liste que toi. Ramos, je vais le mettre sur le banc. Beckenbauer, je dois le vendre. Puis Maldini, ben, c'est défenseur central, ça rime avec Maldini. Là, donc, c'est évident que je mets Maldini dans mon partant. Beckenbauer, j'ai pas vu grand chose de lui, là, mais c'est encore là, c'est trois légendes. N'importe quel choix est valable. Et...
Donc, exact. Ouais. Donc, écoute, les gars, 1h40, on va terminer ça, mais gros segment là, débat qu'on a eu. Puis c'était que dans le plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Des débats comme ça, c'était vraiment fun. Je vais amener des petits jeux plus souvent, pourquoi pas. Mm-hmm. Puis, pendant ce temps aussi, Erling Haaland est un quintuplé là, contre Luton Town en FA Cup. Donc, à suivre également la FA Cup qui se déroule dans les prochains jours. Et là-dessus, ben, merci Hans, merci Dou. C'était Olivier Prince, gros lot à l'animation. Et on vous souhaite beaucoup de plaisir sur la planète foot. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon Rond.